Kid.
Imani l'idée, la persuasion, le silence, informé, cultivé, rigoureux, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, bonne fin de journée. C'est une histoire vraiment, vraiment, d'abord désolante pour une famille. Je pense à bracadabrande pour tout le monde, là, renversante, le corps d'un... Déjà d'avoir quelqu'un qui décède pendant un voyage, là, on se comprend que c'est terrible. C'est terrible vivre un décès subi, là, quelqu'un qui a même pas... Tu sais, même meurt du cœur, bon, pas de préparation, pas de... Tu sais, bon, une personne malade, c'est pas drôle, mais tu te prépares l'esprit, là, un cancer sur quelques mois, bon... Tu t'attristes, mais tu te doutes de ce qui va arriver, mais tu sais, une crise de cœur, la personne est bien en forme, puis là, la minute d'après, elle est décédée à côté de toi. Mais c'est ce qui est arrivé à une famille, mais à Cuba, en vacances. Le monsieur est en train de se baigner, il décède, là, sa fille réussit à le tirer en dehors de l'eau, après ça, avec de l'aide, on a beau tenter les manœuvres de réanimation, il revient pas. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle, là, des gens qui décèdent en voyage, il y en a quelques-uns par année, puis c'est pas drôle pour les familles, il faut rapatrier les corps, mais dans ce cas-ci, ça vient de Cuba. Il y a eu des erreurs là-bas. C'est bizarre comment ils ont agi. Mais ils n'ont pas rapatrié le bon corps. Ils sont allés faire l'identification. Puis c'était quelqu'un de beaucoup plus jeune. Le monsieur décédé, M. Jarjour, était quelqu'un qui n'avait pas de cheveux. Là, tu avais une personne qui avait des cheveux, qui était beaucoup plus jeune, qui était finalement un Russe, qui était plein de tatous. C'était juste quelqu'un d'autre. Et donc, bon. On a rapatrié le mauvais corps, étape 1. Du constat du drame. Étape 2 du constat du drame, c'est que tu rappelles, et puis personne là-bas est capable de te dire où est le père ou le mari, là, selon la personne dans la peau de laquelle on se place. On le sait plus, là. Puis ses papiers d'identité étaient dans... En fait, les copies de ses papiers d'identité là, étaient dans le cercueil du monsieur Russe qui est arrivé par erreur à Montréal. Fait que lui... On n'a plus de traces, là, on ne sait plus. Et c'est donc que je veux vous parler, c'est d'Affaires mondiales Canada. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Canada est un grand pays, comme tous les grands pays, on est représenté partout dans le monde, ça coûte cher, des ambassades, des consulats, tout ça, mais c'est normal. Hein? Un grand pays se dit, il faut que je sois représenté. Quand mes gens voyagent à travers le monde, ces représentants-là vont assurer que tout marche bien. Mais là, les gens, ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de réponse. Ils appellent, ils envoient des courriels, ils n'arrivent pas à parler à quelqu'un, ils n'arrivent pas à avoir des réponses. Notre journaliste là, de TVA Nouvelles à Ottawa a réussi à parler à quelqu'un dans la direction du ministère qui dit « Oui, la famille bénéficie de nos services consulaires. » Ah ben, tant mieux, parce que eux, la famille, ils n'en sont pas sûrs. Là. Semble-t-il que les consulats ou les services consulaires canadiens travaillent à Cuba, mais... Je suppose que oui, je suppose qu'ils disent la vérité, qu'ils s'occupent de quelque chose, mais en termes de rassurer la famille, de leur dire qu'est-ce qui se passe, quelle démarche on entreprend, quel espoir on a, on va vous rappeler. T'sais, la gravité de la situation, à mon avis, requerrait qu'une personne leur parle, je sais pas, moi, une couple de fois par jour, là, au début de la journée puis à la fin de la journée, faire le point, donner un prochain rendez-vous, on se reparle demain. Mais les gens n'ont pas de nouvelles. En fait, eux ont l'impression, la famille, qu'ils n'ont pas de service. Et c'est bizarre à dire, là, mais à chaque fois que les gens à l'étranger sont mal pris puis qu'ils ont affaire à Affaires mondiales Canada, il me semble qu'il n'y en a jamais un qui nous dit « Eh, ça a bien été, ils se sont occupés de moi, ça a été facile de rejoindre quelqu'un, ils m'ont rappelé vite. » Je sais pas ce qui se passe dans ce ministère-là. En fait, je sais plus qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement fédéral dans son ensemble.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Alors, comme personne qui travaille dans les médias, je prends le blâme au nom de nous tous. Nous aurions dû le dire en ondes qu'il fallait pas regarder l'éclipse. Bon, c'est une blague. Parce qu'on l'a dit 2-3 fois, mais à tous ceux qui nous écrivaient pour dire hey, « on est tanné, là, vos recommandations que vous répétez comme des perroquets que vous ne pas regarder l'éclipse, on commence à le savoir. » On répète jamais assez. Il y a toujours quelqu'un qui le sait pas. Bon, on parle de ça parce qu'il y a 28 cas de lésions oculaires. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas le bon appareillage cependant. Là, on sait que chez Canadian Tire, il y a des places qui s'est vendues de mauvaises lunettes. Avec la... ben, je crois comprendre qu'il y a aussi des gens qui ont ils ont regardé l'éclipse. Bon. Ils ont regardé l'éclipse. Un accident. Ça arrive. Langis Michaud, professeur titulaire à la faculté d'optométrie de l'Université de Montréal, est avec nous. Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour, monsieur Dumont.
Bon, parlez-nous un peu de cette situation, parce qu'il y a deux types de problèmes, là, des noms un peu complexes, mais deux types de problèmes qui semblent être générés.
Oui, ben selon l'article de la presse, effectivement, il y a un premier problème qui s'appelle une kératite. La kératite, c'est une inflammation de la cornée. Donc, la cornée, c'est la partie transparente qu'on a en avant de l'œil, là, un peu ce que les gens vont appeler chez eux là, la vitre de l'œil, là, qui est par-dessus la couleur de l'œil qui est l'iris. Donc, c'est du collagène, hein? C'est comme un blanc d'œuf. Et donc, si on chauffe un blanc d'œuf, vous savez ce qui arrive, ça fait une opacité. Alors, quand on a les ultraviolets et les infrarouges du soleil...
C'est carrément le même phénomène, vous voulez dire, comme un œuf là qu'on cuit, il est transparent quand il est liquide, puis dès qu'il cuit, il blanchit, puis c'est la même chose qui se produit dans la... Ah oui?
Essentiellement, on peut dire ça, oui. Ouais, ouais.
Et donc, à regarder le soleil, on peut se cuire un petit peu, là, s'épaissir le liquide de la cornée.
On peut se faire une belle omelette, effectivement, là, parce que... Mais évidemment, on a un mécanisme de protection naturelle. Quand on regarde aujourd'hui qui fait soleil, il y a personne qui va pouvoir regarder le soleil assez longtemps pour que ça arrive, parce que la luminosité est là. En l'espace de 20 millisecondes, il y a déjà un réflexe au niveau de l'œil qui dit « Non, regarde pas ça, le grand. » Puis on détourne le regard.
Ça ferme, c'est ça, contre notre grille.
Alors, on peut l'avoir, par exemple, si vous allez skier dans les montagnes rocheuses ou même dans Charlevoix, ou peu importe la pente de ski, sans protection solaire, sans masque de ski, et qu'il y a une réflexion indirecte du soleil sur la neige, vous passez votre journée, ben à la fin de la journée, c'est possible que vous ayez une kératite parce que le taux d'absorption des ultraviolets, okay. Parce qu'il faut dire que la cornée est bâtie aussi pour absorber une partie des ultraviolets pour protéger la rétine derrière.
OK. Est-ce que c'est permanent ou ça peut passer avec le temps?
Ça dépend de l'intensité de la gravité. Je connais pas les cas qui ont été rapportés. Il faut dire que pour la première fois, l'Ordre des optométristes du Québec a fait une vigie. Comme optométriste, je devais obligatoirement déclarer les cas qui me consultaient. Tout cas, okay. Donc, c'est la première fois. Alors, c'est pour ça qu'on a des statistiques à jour et qui sont intéressantes. Ça s'est sûrement passé dans le passé, mais on n'avait pas ce mécanisme-là. Alors, dépendant de la sévérité des cas, ça peut être réversible, non réversible, mais la cornée peut toujours se réparer. On peut toujours greffer une cornée, mais c'est pas agréable, c'est pas le fun, mais on peut toujours réparer. Ce qui est plus dommageable, c'est l'autre, c'est la rétinopathie solaire, donc l'inflammation de la rétine. Là, c'est plus les infrarouges, les ultraviolets un peu, mais plus les infrarouges qui sont impliqués. Le tissu va être brûlé aussi carrément. Alors, c'est comme un immense gros coup de soleil qui arrive spontanément sur la rétine. Et on a vu quelques cas. Moi, j'ai des collègues qui m'ont rapporté où des gens avaient les lunettes, mais ont regardé l'éclipse à travers des jumelles. Évidemment, les jumelles, c'est des loupes qui concentrent les rayons encore plus en l'espace de 2 millisecondes, encore une fois, les lunettes ont brûlé.
Ah,
les lunettes
ouais.
de protection ont brûlé, ouais, à cause de ça, à cause de cette concentration-là. Évidemment, les gens ont eu le réflexe immédiat d'enlever les choses, mais c'est carbonisé, noirci, là. Donc, ça vous donne l'impact de ce que ces rayons solaires-là, qui étaient non visibles parce que le soleil était caché, mais qui étaient quand même présents, pouvaient avoir... Pas au moment de la totale, bien évidemment, mais dès qu'il y a un petit rayon là à côté, c'est là, c'est juste avant ou juste après, là, c'est là où on peut s'exposer de façon un peu anormale. Mais la beauté de la chose, c'est que les gens se sont déclarés, ont consulté, les optométristes ont fait leur travail, ils ont déclaré ces cas-là, référé à l'ophtalmologiste dans les cas où ça devait l'être.
Mais celui-là semble réversible pour la plupart des cas, non?
Tout dépend du degré d'exposition, okay. Encore une fois. Il y a une dose réponse, là. Évidemment, si on est maintenu là trop longtemps, le dommage va être là. Très souvent, effectivement, au niveau de la rétine, les taches noires qui vont apparaître dans les 24-48 heures suivant l'exposition vont disparaître à mesure que la rétine se rétablit une santé. Mais il est arrivé des cas dans le passé qui sont documentés dans la littérature où il y a des dommages permanents où les gens sont même devenus aveugles.
OK. Qui serait comparable à quoi? Là, un coup de soleil tellement fort que la peau se répare plus, il reste une cicatrice, puis là, t'as une cicatrice sur la cornée qui vient affecter
ben, la cornée, comme je le disais...
Pas la cornée, excusez-moi, la rétine, je me suis trompé.
Mais la rétine, elle est détruite. C'est avec une intensité importante, une exposition importante, elle est complètement détruite. Donc, on peut pas réparer ce tissu-là, on peut pas greffer une rétine.
C'est quoi une rétine? C'est comme une petite peau?
Non, la rétine, c'est une couche, en fait, c'est 10 couches de cellules nerveuses empilées les unes sur les autres et qui communiquent complètement entre elles. On a des millions et des millions de fibres nerveuses qui communiquent entre elles, qui forment le nerf optique, qui vont finir par transiter jusque derrière le cerveau, où là, l'image est interprétée et où on voit dans le fond. Alors, c'est pour ça que c'est impossible
en
de
gros,
greffer
en gros, rétine, c'est bien, en gros, c'est bien fait, là, c'est bien pensé, tout ça. Là, c'est...
L'ingénieur responsable du comité céleste de l'œil, là, il a fait du gros travail.
Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'une fois que tu brûles la partie d'en avant, le récepteur premier, la rétine, là, tout le reste devient inutile.
Ben, le photorécepteur, il est habitué de recevoir la lumière, puis il y a un pigment qui brûle d'ailleurs, entre guillemets, et qui émet une énergie. C'est cette énergie-là qui nous fait voir, qui se transmet par la nerf optique, et ça devient un signal électrique au cerveau qui est interprétable. Mais quand il absorbe trop de lumière, là, il n'y a pas le temps de régénérer ses pigments, on va être ébloui, par exemple, après un flash de caméra. Et quand, dans une éclipse, on a vraiment beaucoup trop, le photorécepteur est détruit, il ne peut plus fonctionner. Là. C'est comme si votre caméra, là, son film, est complètement brisé, puis vous n'avez plus de film dans la caméra. Alors, on peut pas prendre de photos après ça.
Mm-hmm. Donc, vous dites qu'il y a des cas de gens que leurs lunettes ont brûlé carrément parce qu'ils ont essayé d'additionner lunettes et lunettes d'approche, de jumelles. Est-ce que vous avez des cas de lunettes défectueuses? Il y a eu un reportage la semaine passée là, sur Canadian Tire, qui en avait un de leur lot, l'un de leurs fabricants, qui n'était pas conforme. Est-ce que ça, il y en a eu de rapporter, donc des gens qui pensaient avoir acheté la bonne chose, mais qui avaient des lunettes inappropriées?
Comme je vous dis, je ne suis pas au courant de chacun des cas. Le secret professionnel fait qu'il fallait déclarer les cas un peu de façon anonyme. Là, une fois qu'on les avait référés aux bons endroits pour leur traitement, il fallait juste référer qu'on avait un cas. Là, puis c'est correct pour la protection des renseignements personnels des patients. Là, on voudrait pas que tout le monde sache que M. Tremblay a la rétine brûlée parce qu'il a acheté ses lunettes à quelques places. Mais donc.
Ou qui a regardé l'éclipse. Ça non plus, on n'a pas des gens qui ont carrément. Parce que moi, j'en ai vu sur la rue ici, là, des gens, mais ils n'étaient pas vraiment capables, ils mettaient leurs bras, mais des gens qui se battaient là, pour essayer de regarder l'éclipse. On en a averti un, de la gang, ne faites pas ça, mais.
C'est ça, on peut pas savoir. Le meilleur exemple d'un comportement un petit peu. Délinquant de cette nature-là, si vous vous rappellerez, pas à celle-ci, mais au début de la présidence du président Trump, il y avait eu une éclipse, il était sorti sur le balcon de la Maison-Blanche, puis il avait regardé, lui, le soleil, sans aucune lunette, jusqu'à temps que quelqu'un tape sur l'épaule en disant « pas une bonne idée, le grand
». Oui, je me souviens de l'épisode unique.
Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir eu quelques Trump au Québec.
Non. Donc, mais dans l'histoire, ce que je comprends, et même... Je sais pas, mais dans des peuples moins informés où les médias sont pas aussi présents, des gens qui deviennent, il semble pas y en avoir tant que ça. On dit que c'est un danger là, mais des gens qui sont devenus carrément aveugles, là, qui ont perdu la vue pour avoir regardé une éclipse, ça semble pas être quelque chose de si fréquent. Mais vous dites que c'est quand même théoriquement possible.
Ben, tout est une question de documenter. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on fait une vigie au Québec dans une société qui serait plus ou moins organisée en termes de système de santé. Je suis pas sûr qu'on a un registre et qu'il y a une déclaration obligatoire de ces cas-là. Les gens, ils vivent un peu leur malheur dans leur coin, puis souvent ils ont pas le moyen de consulter. Les soins sont à 300 km de distance. Dans beaucoup de populations et dans beaucoup de civilisations, ils ont appris à vivre avec le soleil. Toutes les gens qui sont en Afrique du Nord ou en Afrique en général ont culturellement une relation avec le soleil qui est pas mal plus naturelle que la nôtre, je vous dirais. Ils sont habitués de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire.
Ouais.
Mais de façon générale, je voudrais, c'est une question de déclaration, c'est une question de registre. On sait jamais le nombre de cas. T'sais, on a eu les cas de rougeole, mais il y en a... Bon, il y en a eu probablement plus que ça. On ne sait jamais. Ouais. Là. Mais un, c'est un de trop.
C'est certainement un de trop, parce que perdre la vue, c'est tout un changement dans une vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Langis Michaud, professeur en optométrie à l'Université de Montréal.
Merci.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon. Là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Bonjour Marie.
Salut Mario.
Alors, tu veux me parler de ce reportage, et c'est le deuxième en quelques mois, là, d'une école secondaire, une école française, où on fonctionne en français, une école francophone, mais où des enseignants et des jeunes constatent que dans les corridors, au dîner, un peu partout dans les lieux communs, ça parle anglais en masse.
Ben, je veux surtout te parler de la réaction qu'ont eu deux ministres du gouvernement de la CAQ par rapport à ce reportage-là, dont notamment Jean-François Roberge, ministre responsable de la langue française, et Bernard Drinville, ministre responsable de l'éducation, qui ont pointé du doigt les demandeurs d'asile pour la situation qui se passe à l'école secondaire, la cité des jeunes. Puis, ça se fait dans un contexte...
La probabilité, c'est qu'il n'y en a pas un seul, là.
Ben là, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça, mon réflexe. Puis là, je me disais, bon, OK, on va mettre le contexte. Il y a eu ce reportage-là ce matin. Après ça, dans la journée, il y a eu la ministre Fréchette, la ministre de l'Immigration, entre autres, qui a annoncé qu'elle donnait 5 millions à des organismes communautaires pour aider à l'accueil des demandeurs d'asile. Puis là, ils ont rayé leur demande auprès du gouvernement fédéral. Donc, tu sais, c'était dans l'air, là, la question des demandeurs d'asile. Puis là, Bernard Drinville, il se retourne, puis il dit, ah ben, il y a trop de demandeurs d'asile. Donc, c'est pour ça que les jeunes parlent en anglais à la cité. Puis je me disais, il y a combien de demandeurs d'asile à Vaudreuil-Dorion qui provoquent cette situation-là chez les jeunes au secondaire?
À mon avis, ça doit être proche du zéro.
Ben, c'est un peu mon impression aussi, Mario. T'sais. Puis je me disais, c'est pas plus Netflix, c'est pas plus les jeux vidéo, c'est pas plus la musique, c'est pas plus YouTube, c'est pas plus TikTok, Instagram, je sais pas, le contenu culturel. En tout cas, il me semble que j'aurais une couple d'éléments à pointer du doigt avant d'aller pointer les demandeurs d'asile. Puis je trouvais que il y a quelque part où c'est un peu irresponsable comme ministre de faire. C'est un raccourci, je peux pas l'appeler autrement, puis c'est un raccourci qui semble reposer sur pas grand-chose, et ton intuition, je la partage aussi, à savoir que ça doit pas être la principale région, Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion, où il y a un accueil si massif de demandeurs d'asile qu'on est passé en quelques mois d'école secondaire où ça parlait français en anglais, tu sais. Puis je veux pas minimiser l'enjeu de la présence de l'anglicisation dans les corridors, mais tu sais, mon propos il était vraiment pas là-dessus, mais je trouve que
non, mais on peut pas, je veux dire, les demandeurs d'asile en nombre démesuré causent des ennuis, mais on peut pas, dès qu'il y a un problème, dire demandeur d'asile non plus comme réponse à tout, là, comme excuse à tout.
Ben, c'est l'enjeu, tu sais, c'est le risque qu'on a dans ce débat-là à chaque fois, quand il y a quelques, puis il y a plusieurs ministres qui ont tendance à glisser, hein, quand il y a question de la crise du logement, ah, ben là, c'est à cause des immigrants, tu sais, là, la France, l'anglicisation, ah, ben là, c'est les demandeurs d'asile, tu sais, puis là, on va aller faire, tu sais, quand on avait parlé justement de la volonté de François Legault d'aller faire un débat sur la question du référendum sur les pouvoirs en immigration, le risque qui est là, c'est la pente glissante que finalement tous nos mots, sûrement aussi que la question du transport collectif, ça doit être leur faute. Tu sais. Puis là, c'est pour ça que je me dis, il me semble que comme membre d'un gouvernement, comme membre d'un conseil des ministres, t'as une responsabilité d'être tout le temps très factuel aussi, puis t'assurer que le débat prenne la bonne direction aussi. Et c'est un enjeu, la question de l'anglicisation chez les adolescents, mais pointe le bon problème, tu sais.
Marie, tu veux me parler aussi d'Éric Lefebvre? D'abord, les conservateurs ont fait un rassemblement hier dans la circonscription de Richmond-Arthabaskan, dans le futur comté d'Éric Lefebvre, qui a quitté la CAQ, le whip de la CAQ qui a quitté la semaine passée pour aller se présenter avec les conservateurs. Et là, c'est Yves-François Blanchet qui a repris le collier et qui, je vais reprendre les mots, là, immoral et malhonnête. Là. C'est comme ça que nomme la décision d'Éric Lefebvre de rester député, de garder son siège, donc de garder son salaire de député à Québec, tout en annonçant qu'il s'en va faire campagne à Ottawa.
Écoute, je sais pas si c'est parce qu'on est lundi, Mario, puis il y a des élus qui ont profité du week-end pour pas faire d'intervention, puis aujourd'hui se sentaient en verve. Là, on est un petit peu dans la même lignée que je te disais que Bernard Drinville et Jean-François Roberge ont un peu échappé aujourd'hui en pointant pas le bon problème du doigt. Là, écoute, il est pas allé de demi-mot, là, Yves-François Blanchet, en disant que c'est immoral et malhonnête. T'sais,
Mais il est pas un peu tôt? Il est pas, moi, je trouve que, tu sais, dans le fond, on le sait pas encore. Lui, il a dit, moi, je veux continuer à représenter les électeurs d'Arthabaska. Mais moi, il me semble, moi, il faut que je me donne, mettons, jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de la session. Là, je vais aller voir Est-ce qu'il a voté à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il s'est présenté? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il a du service à son bureau de comté? Est-ce qu'il s'occupe de son affaire? Si on me dit qu'il fait campagne à temps plein à Ottawa, on le voit plus à son bureau de comté, c'est des employés, lui est plus jamais là, puis il est plus jamais au Parlement à Québec. Là, peut-être je vais me ranger du côté de ceux qui disent hey, il prend la paye puis il fait plus la job. Mais aujourd'hui, je me sens pas, moi, en mesure de trancher, tu sais.
Ben, il y a une personne qui a tranché dans une situation similaire, puis tu auras remarqué qu'il n'y a pas de députés de l'opposition à l'heure actuelle qui ont demandé à la commissaire à l'éthique de se saisir de ce dossier-là. Peut-être qu'il est un peu tôt, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais la commissaire à l'éthique s'est déjà penchée sur un dossier similaire qui était pire, qui était celui de Martine Ouellet, qui n'était pas juste candidate, qui était chef du Bloc québécois à Ottawa. Elle avait deux mandats, deux chapeaux, deux payes. Et la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale s'était penchée sur la question à l'époque en disant, ben écoutez, il y a éthiquement, il n'y a pas d'enjeu. Si elle est capable de faire la démonstration qu'elle répond à ses responsabilités, ça va. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Donc, je trouvais que François Blanchet, qui est-il pour aller dire que c'est immoral? Une fois qu'on a dit ça, tu sais, Éric Lefebvre, il n'a pas besoin d'être à Ottawa pour faire campagne. Il va faire campagne dans sa circonscription. Donc, moi, je suis quand même curieuse.
C'est-à-dire que quand il va faire ses niaiseux, mais le travail normal, mettons, de fin de semaine de député, là, tu sais, tu vas samedi après-midi, il y a une exposition de quelque chose, samedi soir, il y a un souper de l'âge d'or. Tu sais, tu fais 4-5 activités, mais je veux dire, tu y vas, tu serres des mains, tu salues les gens, tu le fais à la fois comme député québécois et comme candidat conservateur. Ça se sépare pas. Tu peux pas dire dans lequel des deux rôles, tu sais, c'est... Tu écoutes, tu rencontres des gens, tu serres des mains, ils sont contents de te voir. C'est le même rôle.
Mais si ça se trouve, c'est ça. Il y a une partie de son travail où, si ça se trouve, il va être encore plus présent, il va être encore plus sur le terrain. Parce que là, il est en campagne électorale. Donc, il faut qu'il en serre des mains, il faut qu'il rencontre des gens. Puis là, il n'y a plus la plage horaire de 2 ans et demi, 3 ans comme il l'avait au provincial. Là, il est dans une fenêtre plus courte. Donc, il va peut-être être encore plus motivé. Il risque de moins voir sa mère. Hein? Éric Lefebvre, là, c'est celui qui avait demandé... qui avait justifié son 30% d'augmentation de salaire parce qu'il voyait pas sa maman. Donc là, ça se peut qu'il soit encore plus présent sur le terrain. Mais ça se peut qu'il y ait une partie du travail aussi. Tu sais, je veux dire, ton cerveau, là, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux le diviser. Là. Lui, il va être focus sur gagner sa campagne électorale. Donc, est-ce qu'il va continuer de faire des représentations pour ses écoles primaires qui ont besoin d'agrandissement, pour ses PME qui ont besoin d'être soutenus auprès du ministre de l'Économie? Est-ce que ses énergies, il va continuer de les mettre là-dessus ou il va les mettre sur une campagne fédérale? Puis c'est ça qu'il faut surveiller. Et là, qui va surveiller ça étroitement? Je suis pas sûr que la commissaire à l'éthique va faire ça quotidiennement. Là.
Non, puis je le sais que les dossiers, mettons, tu parles de rénovation d'école ou d'autres dossiers, doivent être évalués au mérite. Mais tu sais, des fois, quelqu'un d'influent, genre quand t'es le whip du gouvernement, que tu rends des services, t'as des petits bonbons, des petits candidats donnés à gauche puis à droite, ça peut te donner un petit pouvoir pour faire devancer ton dossier ou un dossier que tu veux absolument. Là, il a perdu. Les gens d'Arthabasca, là, je sais pas si ils ont perdu ce pouvoir-là, là, tu sais, de quelqu'un qui siège au Conseil des ministres. Mais je pense pas que les gens ressortent gagnants. Mais de là à dire qu'il ne fait plus son travail du tout, moi, je me laisse du temps pour juger. Ça sera peut-être ma position rendue à la fin de la session. Si on ne le revoit plus une journée à l'Assemblée nationale puis qu'il est absent de tous les votes d'ici la mi-juin, là, peut-être que je vais revenir au même micro ici puis je vais dire, ouais, là, les gens d'Arthabasca, il n'y a plus de députés, il y a la paye, mais il ne fait plus la job. Mais la 7 d'Ati, je trouve qu'il est un peu tôt pour trancher. Là.
Ouais. Il y aura un enjeu au niveau de son assiduité de toute façon, parce que tu sais, dans le code de déontologie de l'Assemblée nationale, puis ça, surveillé à l'Assemblée. Oui, ouais, c'est très surveillé. Puis à chaque fois qu'il y a eu des députés justement qui ont été exclus comme ça d'un caucus ou qui sont devenus indépendants par choix, pas par choix, il y a un suivi qui est fait tout de suite par la commissaire en demandant, tu sais, vous avez l'intention de comment vous allez fonctionner. Vous vous rappelez que vous avez ou un député qui est malade, par exemple, ou comme ça s'est passé avec Harold Lebel, entre autres, qui avait des poursuites contre lui. Il y a toute cette question-là de, il y a une responsabilité d'assiduité. Donc, comment vas-tu faire ton assiduité? Est-ce que tu vas être présent en chambre? Est-ce que tu vas être présent dans les votes? Est-ce que tu vas déposer des motions? Donc, ça va être surveillé, c'est certain. Et là, il a tout intérêt, effectivement, à faire patte blanche là-dessus parce que ça va lui nuire. Tu sais, c'est les mêmes citoyens là, qui vont voter pour lui au fédéral. Non,
un blâme de la commissaire à l'éthique, c'est pas la bonne façon. C'est pas le bon coup de départ, le bon coup d'envoi pour une campagne. Non, c'est ça. Merci, Marie. À demain.
Bye, Mario.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
On sait maintenant qui succède à Guillaume le Métis Vierge à l'animation de Chanteur masqué. Et c'est... Sébastien Benoît, c'est à lui qu'on a confié l'animation de la 4e saison. On dit en fait du côté de la production que c'était quand même un choix sûr parce que ça fait longtemps qu'il est dans la grande famille de TVA. Il est apprécié du milieu artistique, il est apprécié aussi du public à la maison. Puis c'est sûr aussi qu'on cherchait quelqu'un qui ne fait pas trop de vagues non plus.
Je prends son chalet ou...
Non, je pense que c'est assez...
Ouais, Sébastien Benoît, c'est ça, là, il publie une vidéo dans le bois.
Quoi? Oups! Impossible. Est-ce qu'il pointe des arbres puis des écritures dessus?
Non, c'est pas le genre à Sébastien Benoît de faire des vagues, mais de toute façon, c'est ce qu'on recherche. Je pense que c'est ce qu'on recherchait dans un curriculum vitae là, quand on a reçu les candidats à l'audition de chanteurs.
On voulait pas rechanger en juin, là.
Non, c'est ça. Je pense qu'on est parti pour une coupe de saison. En tout cas, Sébastien Benoît, qui est très, très heureux, tu le disais sur son compte Instagram, il a fait une publication justement pour dire « Je peux pas croire qu'on m'offre ce contrat-là. » Sébastien qui anime depuis 30 ans. On sait qu'il est capable de chausser les grosses chaussures de chanteur masqué. C'est quand même le rendez-vous là, de l'automne à TVA. Les codes d'écoute explosent. Donc, il est très, très heureux de tout ça. Les tournages commencent là, dans à peine quelques semaines. Peut-être qu'il y aura des nouvelles chansons de Taylor Swift parmi les chanteurs masqués. Je dis ça parce qu'en ce moment... Ça marche pour...
Des records, là.
Hein? C'est hallucinant, là, les records. Je vous le rappelle que l'album est sorti vendredi dernier. En une seule journée, elle a vendu 1,4 million d'exemplaires aux États-Unis seulement, ce qui constitue un record. Puis elle se faisait compétition à elle-même parce que le précédent record était détenu par son album 1989 version Taylor. Et la première chanson de son album Fortnite, qui est une collaboration avec Post Malone, est devenue la chanson la plus écoutée sur Spotify en une seule journée. Finalement.
Rien là.
Écoute, les Swifties ont pris d'assaut toutes les plateformes d'écoute pour son nouvel album. Est-ce qu'on est surpris? Je pense pas.
Non. Mais ben là, quand tu dis qu'elle regarde des tribunes, là, un match de la NFL, elle est juste là, dans les loges. Puis ça change les codes d'écoute, mais ça les change là, hors normes. Là. Le match devient un match regardé comme un. En plein milieu de la saison, mais le match vient regarder avec le genre de code d'écoute d'un match de série. Puis
la semaine fréquentée, un joueur de l'équipe, ben les ventes de chandail explosent.
Le joueur là explose, c'est ça.
Et là, tout d'un coup, il y a des publicités beauté qui sont diffusées au Super Bowl, chose que ça ne s'était jamais passé avant.
C'est ça.
C'est hallucinant, là, tout ce phénomène. Ça doit être frustrant pour un fan de football. Non?
Bon,
on s'en fout.
Il y en a qui ont vraiment frustré beaucoup là-dessus. Moi, ça m'a pas tant dérangé. Au Super Bowl, là, j'avais peur de commencer à être tanné un petit peu, mais bon,
finalement,
pas tant que ça.
Mais ça attire des gens vers le beau sport qui est le football, puis la NFL, puis cette magnifique
vie. C'est vrai que ça peut développer des intérêts, là, des nouveaux. Hein.
Mais là, Sébastien Benoît, il va continuer à faire la poule aux œufs d'or.
Ben, théoriquement, en ce moment, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
Stand by, poule aux œufs d'or.
Parce que là, s'il fait les deux, il va travailler comme un. Forcené.
Oh. J'adore les détours que tu prends, Mario, pour nous ramener ça sur le...
Non, mais je m'inquiète de son effort de travail.
C'est légitime. J'avoue que ça ferait beaucoup, tu sais, la poule, l'automne, le printemps, l'été, ses chanteurs masqués, là, à travers tout ça, il y a peut-être une 11e saison de coup de foudre à Zest.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ça fait longtemps là, que c'est son petit bébé. Là. Il t'a jamais invité? Mais voyons donc.
Il n'y a personne qui mange comme un cochon comme moi et qui aime tout. Là.
Ben là, écris-lui. C'est sûr qu'il va accepter
Non, je suis timide, moi.
Ah.
Tu veux qu'on
t'appelle.
Puis l'autre chose, c'est que je ne suis jamais disponible. Là.
C'est sûr que... Puis c'est des longues journées en coup de foudre. C'est ça.
Je pense que je pourrais pas le faire, c'est ça.
T'en sais peut-être qu'il va l'assigner à chanteur masqué à la place. Là. Mario va être déguisé en hot dog.
Que dirais-tu de pousser la note, Mario?
C'est pas facile.
Ah.
Je pense qu'on va reconnaître très vite.
En même temps, t'as une bonne coach à la maison.
Ouais, mais c'est ça.
Je
suis pas facile à coacher. Je suis pas facile à coacher pour ça. On dirait que je l'ai pas.
Qui sait? En même temps, t'aurais pas le droit de nous le dire si jamais tu faisais la prochaine saison. Faudrait le deviner nous-mêmes. Mais toi, tu serais bon pour remarquer si c'est Mario qui est derrière.
Moi, je pense que je l'entends assez dans une journée quand même.
Ouais, en tout cas,
sa douce voix mélodieuse.
Mmh. Moi, Moi, je vais me fier à Alexandre si jamais j'ai certains
pour
doutes.
Pour deviner, OK.
Cet automne. Je vous invite à rester avec nous un petit peu plus tard dans l'épisode de Mario Dumont. On va revenir sur cette mobilisation de 82 maires et mairesses du Grand Montréal qui ont décidé d'interpeller le gouvernement du Québec en disant qu'il faut investir davantage là, dans le transport en commun. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir faire une majoration de la taxe sur l'immatriculation. Puis une pas pire à part de ça, oui.
Oui, c'est ça que je te dis, une majoration, ouais. Toute une majoration.
Oui, c'est ça, les
le choix, c'est option A, 100%, option B, 200%, option 3, 280% d'augmentation.
Ça fait mal dans les poches, ça, à un moment donné. Fait que, à voir, on va revenir sur ce sujet-là qui a fait l'actualité aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé, ben vous avez accès à tous les balados de la journée des animateurs, là, que ce soit Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Yasmine Abdel-Fadel, Sophie Durocher, Mathieu Bocoté, Alexandre Dubé aussi qui commence nos journées du lundi au vendredi. Tout ça est disponible sur lecube.ca ou encore sur l'application Cube. Vous avez le petit onglet balado. C'est super facile. Vous choisissez les épisodes de vos animateurs et vous avez ensuite tous les segments des émissions. Puis je vous rappelle aussi de vous abonner à la chaîne télé de Cube parce que ce n'est plus débrouillé. Donc, il faut l'ajouter à votre forfait de chaîne spécialisée.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
On l'a-tu assez dit qu'il fallait pas regarder l'éclipse?
Ben là, ouais, on l'a dit pas mal.
Ouais.
Mais semble-t-il qu'il y a des accidents, là, des gens qui avaient pas, ils pensaient avoir les bonnes lunettes, ils les avaient pas. Et l'accident que je savais pas, qu'un professeur, un universitaire, un professeur d'optométrie m'a expliqué, c'est qu'il y a des gens qui avaient des bonnes lunettes, et qui ont, pensant bien faire, pris les bonnes lunettes et ont mis des jumelles. Et la force du soleil, à travers, parce que là, ça a fait comme une loupe. Tu sais, quand on était enfant, on allumait un feu avec une loupe, là.
Oui.
Mais en quelques secondes, en 2 à 5 secondes, leurs lunettes, ont brûlé carrément, là, la lunette a brûlé.
Oui. Puis ça fait partie.
Et là, il y avait comme plus de lunettes.
Et ça fait partie donc de ces blessures qui sont répertoriées là, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce que là, on fait de l'humour, mais c'est vrai, il y a au moins, là, puis je dis au moins parce que c'était sur une base volontaire qu'on donnait ces témoignages-là, mais au moins 28 cas là, de lésions oculaires qui ont été enregistrés au Québec.
Dans l'histoire récente là, ici de nos réseaux de santé au Québec, au Canada, on dit que c'est la première fois que tous les optométristes, tous les systèmes de santé se sont donné le mot pour faire un bilan complet. Donc, toute personne qui arrive avec une conséquence... on le rapporte pour faire une évaluation complète, un portrait complet des conséquences.
Oui, pour être capable d'évaluer quand même les impacts d'un événement qui survient pas souvent, hein, disons-le comme ça, une éclipse solaire totale, la prochaine, ben, c'est dans des décennies, donc on n'est pas prêt d'en revoir une. C'est ce qui a permis au ministère de la Santé et Services sociaux d'accumuler des données comme celle-là. Et là, on n'a pas, par contre, les précisions sur où ça se passait, est-ce qu'on est en zone totale, est-ce qu'on est en zone d'éclipse partielle. Puis il y a évidemment, ces accidents, mais ça doit pas tout être des accidents, Mario. On s'entend.
Non, c'est sûr que sur le nombre, sur 28, il y en a quelques-uns que c'est juste comme beau. Oui. Ils ont regardé l'éclipse.
Mais je me souviens qu'on l'a regardé ici sur la rue, Mario, ben juste oui, en avant
sais,
de
toi,
notre...
Je n'ai parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un que t'as averti, monsieur, arrêtez de faire ça. Il mettait ses bras, il essayait, mains
en visière pour essayer de regarder l'éclipse. Monsieur, monsieur, c'est parce qu'on l'a dit 202 000 fois. Faites pas ça.
Mais ceci dit, la grande majorité des cas, aux États-Unis, là, les 28, on n'a pas le détail au Québec, mais c'est réversible. Donc les gens, ils ont eu des désagréments, ils ont vu des points noirs pendant une couple de jours, mais ça revient. Exemple, si la rétine n'est pas complètement brûlée, elle est abîmée, mais elle se répare comme notre peau, elle se répare d'elle-même. Bon, la cornée, ça semble un peu plus compliqué. Le professeur m'expliquait que la cornée, la façon dont il faut voir ça, c'est carrément comme un œuf. Quand tu casses un œuf, le blanc d'œuf est parfaitement transparent. C'est le genre de gélatine qu'on a entre l'iris puis la vitre de l'œil, la cornée.
Bon, c'est comme la surface. C'est pas la surface.
Et ça cuit. De la même façon que ton blanc d'œuf, là, avec la chaleur, à un moment donné, il passe de transparent. C'est un peu dégueu.
Ouais.
Il passe de transparent à opaque. Tu vois, tout à coup, ça se brouille, puis ça devient blanc. Mais ton œil, il vient pas de blanc cuit comme une omelette, là. Mais il cuit un petit peu, là. Fait que là, toi, tu vois, c'est comme en brouille. Comme si tu regardais à travers du blanc d'œuf, mais qui a cuit un peu, là.
Mais c'était une très mauvaise nouvelle de regarder ça avec des jumelles.
Ben, ça, semble-t-il que ça se corrige dans le sens, c'est une greffe de cornée.
quand même un désagrément.
Okay, nous devons oui, passer à la grève de cornée. Ça me faire jouer dans les yeux.
Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que ça reste 28 cas, hein, certains pourraient dire seulement, hein, dans une province, une région qui était quand même assez grande, surtout excessivement populeuse. Hein, l'éclipse totale est passée sur l'île de Montréal.
Millions, là, sur des millions, mais quand même.
Bon, alors, la leçon. Pour la prochaine éclipse, si vous êtes toujours vivant, pas de jumelles, mettez vos lunettes, s'il vous plaît.
Ouais, puis... Actualité. Les gens qui nous ont écrit pour dire « Hey, là, on commence à être écœuré, là, vous répétez toujours la même chose, vous pas regarder l'éclipse. » On n'a peut-être pas encore répété assez souvent.
Non.
Je le sais que pour quelqu'un qui l'a compris la première fois, on a l'air dans les médias des fois des capotés de répéter les mêmes choses.
Mais c'est souvent pour des bonnes raisons.
Ouais. Mais, tu sais, mettons, les gens seraient surpris dans le dernier 48 heures là, de l'éclipse. La quantité de messages que j'ai reçus, puis des gens vraiment de bonne foi qui me posaient, moi j'aurais une question, M. Dumont, il me l'envoyait à moi, là, une question. Puis là, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens, là, on l'a dit, on l'a dit.
Oui, puis en plus, t'étais comme le fan numéro un, en plus, d'Éclipse Québec, oui, hein, le site avec toutes les informations.
C'est vrai. On a dit les informations, puis on a donné le site Éclipse Québec où tu pouvais aller toi-même lire, c'est simple, vulgarisé, tout bien écrit.
C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des gens
qui
disent...
En fait, la pédagogie...
C'est M. Dumont qu'on va texter, oui, il va nous le dire, pendant l'éclipse.
Mais les enseignants nous disent toujours, la pédagogie, c'est l'art de répéter.
Voilà. Oui, et de répéter beaucoup dans ce cas-ci, même si des fois, c'est pas suffisant. Mario, une autre nouvelle complètement folle, qui tombe dans l'actualité aujourd'hui, qui nous est racontée, de la bouche d'une dame, Myriam Jarjour, qui, malheureusement, a perdu son père lors de vacances à Cuba. Puis perdu, on se comprend, il est décédé, malheureusement, d'une crise cardiaque, s'en va dans l'eau, deuxième jour de vacances en famille, un malaise, puis malheureusement, pas de sauveteur sur place, personne en mesure de venir essayer de lui sauver la vie, ce qui fait en sorte que quand
il y a quand même eu des... Elle dit qu'elle l'a sortie de l'eau, d'autres l'ont aidé, maintenant, se rendant compte, la criait... ils ont tenté des manœuvres de réanimation. Est-ce qu'il aurait peut-être pu être sauvé s'il y avait eu rapidement des services d'urgence? Mais en tout cas, on a tenté, je comprends, massage cardiaque sur le bord de la plage. Il n'y avait plus rien à faire.
Oui, et c'est ce qui fait que malheureusement...
Mais c'est la suite, là, c'est déjà un énorme événement, mais là, bon, ça arrive. Quelques fois par année, là, des gens qui décèdent à l'étranger en voyage, faut rapatrier la dépouille.
Oui, puis ce problème-là, c'est déjà posé, entre autres, sur des gros navires de croisière, des gros paquebots, Mario, surtout quand t'es dans le sud. C'est parce qu'il faut que tu t'occupes du corps. Là. C'est pas quelque chose que tu peux laisser comme ça au soleil, sans surveillance, sans supervision. Mais malheureusement, c'est ce qui semble avoir été fait avec le corps de M. Farah Ala Jarjour, là, qui est décédé, donc lui, à l'âge de 68 ans. On l'a laissé, semble-t-il, sur une chaise longue, sa dépouille, 8 heures de temps. 8 heures de temps au gros soleil.
Au soleil, sa plage. C'est une chaise longue.
La famille est là, épleurée, tout le monde panique parce que le père de famille vient de décéder. Ouais, on s'en vient chercher ça dans 8 heures. 8 heures plus tard.
Mais au début, ils attendaient une ambulance. Pendant un temps, ils attendaient. Ce que la fille m'a raconté, c'est qu'ils attendaient une ambulance. Mais finalement, en fin de soirée, c'est un véhicule ordinaire, je crois comprendre, une espèce de camionnette, genre un pick-up, là.
Ouais. C'est là-dedans qu'on aurait
embarqué la dépouille. Puis là, ils ont expliqué la famille aurait voulu qu'un des membres monte là, comme témoin, puis voir ce qui se passe. On leur a interdit, on dit, regarde, nous, on n'est pas là pour du temps. On peut juste transporter le corps, on peut pas transporter...
À la Havane, parce que c'est là.
À la Havane, qui est à quelques, comme plusieurs kilomètres de Varadero, pas énormément loin, là, mais... Puis là, ils l'ont jamais revu.
Jamais revu, parce que à ce moment-là, quand quelqu'un décède en voyage... C'est excessivement malheureux, mais en plus de la perte émotionnelle, de la perte, là, évidemment, occasionnée, le deuil et tout, il y a une perte financière aussi qui vient avec tout ça,
c'était assuré, le rapatriement du corps, mais eux, ils ne devaient pas être assurés, ils disent avoir dû payer 10 000 $
Oui, 10 000 $ donc, qui dépense pour être capable, ils se cotisent tous ensemble pour ramener la dépouille du père pour qu'il puisse être enseveli, enterré ici à Montréal. Le problème, c'est que là... Il doit arriver vendredi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et là, je vous laisse, on l'a reçu ici aussi, là, Mme Myriam Jarjour, donc la fille du défunt, à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel un peu plus tôt aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle nous décrit lorsqu'ils ont eu enfin l'appel des nouvelles de leur père.
C'est qu'après 2 heures, mon frère a eu un appel de demander si mon père a des cheveux. Mon père n'a pas de cheveux. Si mon père a des tatous, mon père n'a pas de tatous. En plus, il est plus jeune de mon père de 20 ans.
Ça, c'est la description du corps qui est arrivé. qui est donc pas le corps du tout de leur père, le corps d'un ressortissant russe, comme elle l'a
qu'on dit. A finalement retrouvé, là, qui était décédé aussi ailleurs à Cuba.
Mais qui s'est rendu jusqu'à Montréal-Trudeau au lieu de se rendre en Russie, c'est ce qu'on comprend. Un homme 20 ans plus jeune, tatouage, cheveux... C'est-tu possible d'être plus loin de la description physique de M. Jarjour qui est malheureusement décédé? Je sais pas, honnêtement.
Mmh. Sauf que les papiers, les photocopies des papiers d'identité de M. Jarjour étaient dans le cercueil.
Oui, fait qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça, là, qui a vu les photos, il a fait c'est bon, on étend ça, go!
Ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que ces papiers-là sont plus où il y a le corps.
Non. Qui se retrouve.
Et là, la famille pose des questions et plus personne sait, plus personne a de réponse sur où est le corps de M. Jarjour à ce moment-ci.
Ouais, puis là, c'est censé être la responsabilité, on se comprend, d'Affaires mondiales Canada qui doivent aider, accompagner les familles dans des situations comme celle-là, puis qui n'ont pas l'air d'avoir la moindre idée là, d'où peut se trouver le corps.
Mais eux disent, dans une réponse à nos journalistes à Ottawa, ils disent être en lien avec la famille pour leur offrir des services consulaires, mais la famille dit, nous, on n'a pas de réponse d'eux. Téléphone, courriel, rien. Fait que eux disent offrir des services consulaires à la famille, mais la famille le sait pas.
C'est bien
d'après, d'après moi, les services qu'ils offrent à la famille en termes de suivi, en termes de leur parler régulièrement pour les garder informés de « OK, on se reparle à soir, j'ai des appels à faire, je vais faire des vérifications, je vais appeler je sais plus qui, la santé, l'entrepreneur, la pompe funèbre. » La famille dit être incapable de parler à qui que ce soit. Mais eux disent « Oui, oui, on connaît le dossier, puis la famille reçoit des services consulaires de notre ministère. »
Donc, un organisme gouvernemental répond plus vite aux journalistes qu'à la famille elle-même.
Ben, un organisme gouvernemental dit s'occuper d'une affaire, dit qu'une famille reçoit des services consulaires, mais les principaux intéressés ne le savent pas.
Honnêtement, je peux pas m'imaginer être dans la peau. Là, c'est, ben, si on est sarcastique,
fou.
Mais tu perds ton père.
Je viendrais fou d'appeler à faire Mondial Canada puis d'essayer d'avoir une réponse, de parler à quelqu'un. Déjà, de pas parler à quelqu'un, ça finit fatigant. Quand t'as quelque chose d'aussi grave, qu'on peut pas te... Il me semble qu'une famille comme ça, le cas est tellement unique, tellement spécial. Il me semble que je leur parlerai tous les jours. Dis que on va se parler tous les matins. Mettons que vraiment, là, c'est l'enfer, Cuba répond pas, t'envoies tes services. Mais au moins, tu
montres à la famille que tu fais un suivi.
Que tu fais un suivi, tu racontes un peu tes démarches du jour, tes difficultés, tu leur dis ce que tu vas faire le lendemain, ce que ton enquête t'amène. Qu'au moins la famille peut avoir une paix d'esprit de dire bon ben regarde, ça va pas bien, mais il y a des gens compétents qui font le maximum de ce qui est possible pour essayer de le trouver.
Parle-moi d'un dossier dans lequel tu sais, ça t'enlève la confiance complètement. Vraiment un dossier de fou. En tout cas, toutes nos pensées avec la famille Jarjour, là, en espérant qu'on soit capable de retrouver là, la dépouille du père, puis surtout d'être capable de la ramener par la suite. Parce que là, en plus de tout ça, Mario, ils ont payé 10 000 $,
ouais, c'est ça.
Puis il y avait
tout. Personne ne leur parle de remboursement. Donc, c'est comme s'ils ont payé 10 000 pour faire venir par erreur un Russe. Puis là, personne ne leur parle des remboursés. Là, c'est complètement fou, cette affaire-là.
Ouais, le Russe, lui, il a pu reprendre le chemin de.
Oui, c'est la partie normale. Là. Ils l'ont tourné vers sa famille en Russie. Ça, c'est correct. C'est de bonne loi. Mais la famille de Montréal, eux, ils n'ont pas leur père. Ils n'ont pas de nouvelles. Ils n'ont plus leur argent. Ils n'ont plus rien. Pas de réponse.
Je veux pas dire quoi faire. Au service à Cuba, mais si la dépouille du Russe ici avait les papiers de M. Jarjour, peut-être s'il trouve un corps avec des papiers russes, puis le monsieur n'a pas l'air d'origine russe.
Peut-être que oui, peut-être qu'il y a eu une inversion comme ça. C'était ça, c'est quand même l'inversion la plus simple. Peut-être c'est plus compliqué aussi.
Ouais, ça se pourrait aussi.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Histoire sordide qui fait les manchettes, Mario, une histoire d'agression sexuelle sur une mineure qui se passe sur des années. Mais une histoire qui a aussi un lien avec un autre cas d'actualité récent, puis c'est ce qui en fait une histoire encore plus incroyable, merci. C'est l'histoire de Pierre Lafontaine, un homme qui a plaidé coupable aujourd'hui à accusation d'exploitation sexuelle, contact sexuel sur mineur, incitation à contact sexuel, pornographie juvénile, leur informatique, etc. Un homme qui est un ancien chauffeur d'autobus de 68 ans et qui avait commencé à rencontrer sa jeune victime alors qu'il conduisait son autobus. La jeune femme, à ce moment-là, jeune fille de secondaire 1 à secondaire 3, devient un peu, si on veut, là, la confidente du chauffeur, mais s'assoit derrière lui, lui parle, une fille jeune, somme toute solitaire. Secondaire 3, change d'école, se ramasse seul, isolé, trouble alimentaire, s'automutile. Et à ce moment-là, ben l'homme, le prédateur, prend avantage de tout ça pour avoir de multiples relations sexuelles là, au-delà de 5 ans.
Pis des relations terribles, dégradantes.
Dégueulasses, là. Puis je me passe la description qui contient déjection et tout ce que vous voulez. C'est absolument horrible là, ce que l'homme a fait vivre à la jeune femme. Et plus elle vieillissait, ben moins il s'intéressait à elle. Tiens, au fil des années, si bien que la jeune femme, lorsqu'elle est devenue maman à son tour, ben, a décidé de dénoncer son agresseur. Mais là, c'est que Pierre Lafontaine, lui, est arrêté au terme d'une longue enquête en février 2023.
Sauf que Pierre Lafontaine a été dans l'actualité récemment.
Oui, il avait été à ce moment-là dans l'actualité parce que 4 mois plus tôt, c'est son frère cadet, Luc Lafontaine, qui se retrouve dans l'actualité parce qu'il s'est fait assassiné. Puis pas juste assassiné, assassiné et démembré par un jeune étudiant de 19 ans. Cette histoire de Nicolas Côté, là, qui est le criminel dans cette histoire-là, qui a été là, reconnu coupable et qui a même avoué la culpabilité dans son crime d'avoir tué Luc Lafontaine. Là. Je résume un peu l'histoire, elle avait fait beaucoup les manchettes. Là. Le jeune homme avait approché cet homme-là en disant, en pensant que son ami, lui, s'était déjà fait agresser sexuellement par Luc Lafontaine.
Mais ça semblait être le cas, là. Ça semblait...
Ben, il rencontrait M. Lafontaine sous prétexte d'aller avoir des relations sexuelles. Ni plus ni moins. En étant un jeune homme de 19 ans, se présente là-bas, ça tourne mal, et là, ben, finit par donner des coups de marteau, puis poignarde et tue finalement, là, M. Lafontaine, le démembre et essaie d'aller se débarrasser du corps, hein, auquel moment les policiers l'interceptent.
On l'intercepte, là, les gens qui s'en souviennent, à Saint-Basile-le-Grand, il est à la descente de bateau, là, il s'en va porter les morceaux dans la rivière Richelieu, les morceaux, les restes humains dans la rivière Richelieu, et les policiers qui l'avaient sous écoute en conversation téléphonique, savent qu'ils s'en vont là, les arrêtent sur place. Lui puis une jeune fille qui était sa blonde de l'époque.
Ouais, qui est devenue le complice là à ce moment-là. Il a été reconnu coupable d'outrage en cadavre, complicité après le fait.
Et donc, à ce moment-là, quand Luc Lafontaine est décédé, c'est son frère qui commente le décès dans les médias.
Ben voilà, et Pierre Lafontaine, lui, s'en va défendre, ni plus ni moins, son frère, en disant que c'est pas
un pédophile, c'est impossible, cette histoire-là.
En étant lui-même, on le sait maintenant, puisqu'il a plaidé coupable, un pédophile. On a même la jeune victime là, de Pierre Lafontaine qui a commenté elle-même, là, semble-t-il, aux journalistes en expliquant à nos collègues du Journal de Montréal qu'elle se doutait même que c'était une autre histoire d'agression sexuelle là, dès qu'elle avait vu le meurtre de Luc Lafontaine. Là, t'as un duo de frères pédophiles. Alors, c'est toute une histoire, Mario, là, sincèrement, toute une histoire comme ça qui revient dans l'actualité et encore une fois sordide, là, vraiment sordide histoire.
Tout savoir en 24 minutes.
Ça continue de brasser pas mal à Montréal, Mario, là, sur le niveau des vols de voitures, mais aussi, tout simplement, des voleurs de voitures eux-mêmes qui conduisent en cow-boy. On va le dire de même.
Ouais, et qui deviennent violents. Dans certains cas, c'est plus qu'en cow-boy qui conduisent en agresseur.
Ouais, parce que la police, depuis la fin de semaine, recherchait là, un conducteur là, qui a échappé là, au volant d'une BMW aux policiers. Là, dans une vidéo qui a été partagée abondamment sur les réseaux sociaux, on voit même là, un policier arme dégainée qui pointe vers le véhicule, demande au conducteur d'obtempérer en disant « Arrête-toi, sinon je tire. » Puis le conducteur qui fait une manœuvre, là, marche arrière, embarque sur un trottoir, puis roule là, presque sur le policier qui réussit à éviter la voiture de justesse, puis prend la poudre d'escampette par la suite. On continue à chercher cette personne-là, mais c'est des incidents comme ça dans lesquels on se comprend. Un policier a eu sa vie mise en danger par cette manœuvre-là, mais il y en a une deuxième. Là. On dit que c'est un autre incident qui est survenu cet après-midi à Montréal, dans le coin de Pointe-Claire. Et là, c'est une autopatrouille là, qui s'est faite frapper dans une manœuvre qui est à peu près similaire. Là. On a tenté de reculer, d'échapper aux forces de l'ordre, un véhicule volé, encore une fois, fonce dans le véhicule de police. Et ça aurait même là, blessé légèrement le policier là, qui aurait été heurté par tout ça. Donc, deux cas quand même là qui se retrouvent dans une temporalité assez proche.
Il y en avait quand même eu un vendredi, il y a un type là, qui s'est retrouvé atteint là, par les balles des projectiles des policiers alors qu'il fonçait sur les policiers. Son frère témoignait dans les médias en fin de semaine, son frère disant que il méritait pas ça, il méritait pas un tel sort, que lui est sûr. Bon, son frère a dû être condamné pour vol de voiture en Alberta. Mais il dit, c'est pas le genre de gars qui aurait foncé ses policiers. Il dit, les policiers n'auraient jamais dû tirer sur lui parce que lui, là, c'est sûr qu'au dernier, même s'il avait l'air de foncer sur les policiers, au dernier moment, là, il aurait contourné.
Mais comment t'es supposé savoir ça? C'est ça, un policier.
Parce que là, le policier, il y a quelqu'un qui fonce dessus, là. Là, tu sais, prendre le temps de faire les recherches, savoir c'est qui, trouver son frère, faire les téléphones pour dire, ouais, d'après moi, là, écoute, ils foncent sur toi, là. Il y a juste une façon d'agir, là. C'est t'arrêtes la menace, là. C'est ça que les policiers se font enseigner. Quelqu'un menace ta vie. C'est après ça de dire, ben là, il méritait pas ça. Je suis convaincu qu'il aurait tourné. Juste avant, là.
Oui, c'est des incidents, ça peut sembler banal là, au premier coup d'œil, mais quand on les additionne, Mario, il y a celui-là aujourd'hui, un autre en fin de semaine, un vendredi, les jeunes hommes, les jeunes, ouais, je dis des jeunes hommes, des jeunes ados qui se sont tués dans une course-poursuite en fonçant dans un arbre. On a le phénomène du white lining à Montréal, là, des véhicules qui se filment en train de rouler en fou. Je sais pas, moi, on dirait que je vois, là, tu sais, avec combiner ça avec les vols de voitures, il y en a là, du grabuge avec les autos à Montréal. Fait,
le vol de voiture est quand même au centre de ça. C'est qu'on a laissé un crime prendre de l'ampleur, puis là, on est un peu pris avec tout ce qui vient avec. Là.
Dire qu'on, découle, ouais.
On pensait que c'était un crime sans violence. Tu, les assurances, tu fais voler ton auto, mais les assurances remboursent, pas si grave. Puis là, on se réveille, puis on a laissé un crime prendre de l'ampleur, puis une nouvelle génération de jeunes criminels, puis avec cet argent-là, ils se sont achetés des armes. Puis, là, on est en mode rattrapage.
Économie.
As-tu des réserves de vin assez importantes, Mario, pour survivre la semaine?
Oui.
OK. Fait que t'es pas une de ces personnes pour qui je m'inquiète en ce moment.
On devrait pas. Mais les gens qui s'inquiètent, ils vont pouvoir faire là. Il reste deux jours, là.
Il reste deux jours pour aller faire vos provisions de vin ou autres spiritueux à la SAQ parce que il va y avoir une grève des employés de la Société des alcools
mais
du Québec.
Est-ce qu'ils ferment les portes ou bien les cadres vont faire de la caisse? Parce que dans le passé, quand il y a eu des grèves, là, les cadres, souvent, ça opérait comme des heures restreintes, là. Puis ils remplissent pas les tablettes nécessairement. Mais c'est ouvert, les cadres sont aux caisses, ça peut payer.
C'est une bonne question, je pense que c'est difficile de le garantir à ce point-ci.
Ouais, peut-être que juste deux jours comme ça, ils vont fermer tout simplement. Ils vont prendre la solution facile, ils vont dire, regarde, la personne qui est en manque de produits... Pis...
Parce que c'est le syndicat des employés des magasins et des bureaux aussi de la Société des alcools du Québec. Là. Donc on a quand même là, beaucoup de gens qui risquent d'être en grève. À ce moment-là, là, les négociations qui stagnent, c'est pour ça qu'on s'est doté donc d'un mandat de grève pour mercredi et jeudi cette semaine. C'est à peu près 70% des employés de la SAQ qui sont à temps partiel ou sur appel. Là. Puis c'est ce qui est décrié, entre autres, du côté du syndicat qui, eux, demandent là, d'avoir mais plus de stabilité dans les heures là, d'employés qui savent pas d'une semaine à l'autre combien d'argent ils vont avoir dans leur compte là. Dans ces cas-ci.
La direction de la SAQ est un peu pognée entre deux eaux parce que d'habitude, les ventes augmentent tout le temps. Fait que, quand tes revenus augmentent, ben, si tu augmentes tes dépenses, c'est pas si
tu peux mieux payer tes employés.
Mais là, il y a depuis une couple de trimestres un réel ralentissement des ventes. Même d'un trimestre à l'autre, ça avait baissé un petit peu. Et le ministre des Finances, lui, il est dans le trou. De 11 milliards. Fait que la dernière chose qu'il veut, c'est que des vaches à lait comme la SAQ commencent à y verser moins de dividendes. Donc, tes revenus sont en légère baisse. Le ministre des Finances attend des gros dividendes. Toi, avec tes revenus en baisse, ben là, t'as une pression pour monter les dépenses. Alors qu'il faudrait que pour garder le même dividende avec des revenus plus bas, il faudrait que tu baisses tes dépenses aussi. Fait que j'ai l'impression que la direction de la SAQ présentement est sous haute tension.
Oui. C'est vraiment être coincé entre l'arbre et l'écorce, je pense que ton analogie dans ce que c'est très bonne.
Le monde.
C'était aujourd'hui que commençait officiellement le procès pénal de Donald Trump, là, qui est accusé, je le rappelle, d'un paiement pour acheter le silence d'une ancienne star du X, Stormy Daniels, avec lequel il aurait eu des relations sexuelles, qui aurait tenté de masquer en 2016, tout de suite avant l'élection qu'il l'a porté à la Maison-Blanche. Et là, ça s'ouvrait aujourd'hui avec... Mais bien évidemment, toute la sécurité hein, qui se trouve autour de ce procès-là, les 12 jurés qui étaient assis pour écouter, un tout premier témoignage qui a été présenté. Évidemment, les plaidoiries des avocats ont débuté cette séance aujourd'hui. Puis on y va fort là, du côté de la poursuite, Mario, parce qu'on a décidé de ratisser plus large puis de parler, ni plus ni moins, que de complot pour truquer l'élection de 2016. Là. C'est ça dont on accuse là, en tout Donald Trump en disant qu'en mentant dans ses documents comptables encore et encore puis en dissimulant toutes sortes d'informations, il aurait tenté d'acheter le silence de plein de gens sur toutes sortes de frasques puis d'autres incidents comme celui de Stormy Daniels qui serait arrivé avant l'élection. Là. En bref, d'acheter le silence. Du côté de sa défense, Mario, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il n'y a rien d'illégal à vouloir influencer une élection, ça s'appelle la démocratie.
Mais c'est parce que ce qui lui est reproché, c'est même pas d'avoir payé Stormy Daniels, c'est d'avoir détourné des fonds électoraux pour le faire, oui, puis d'avoir passé ça sur un autre nom, d'avoir caché, d'avoir fraudé les documents. Parce qu'en soi, tu peux, là, ça existe, une entente de confidentialité ou une entente pour taire une affaire. C'est pas parfait, puis quand ça sort, ça a toujours l'air fou un peu, parce que ça dit, OK, t'as de quoi cacher, mais ça peut être légal, là. Quand oui, c'est fait correctement.
Mais quand tu décides de le camoufler sous d'autres noms puis de détourner de l'argent pour le faire, ben à ce moment-là, ben ce n'est pas légal. Pis c'est pour ça qu'il serait passible d'une peine de prison autour de cette affaire-là. Et il y avait un tout premier témoin également qui s'est présenté aujourd'hui, qui est un ancien patron de presse, M. David Pecker, qui lui dirigeait à l'époque le tabloïd américain The National Enquirer.
Qui avait un drôle de rôle là-dedans.
Parce très
que lui,
drôle.
Parce que lui, techniquement, là, son média, c'est des scoops de ce genre-là, là, t'sais, oui, des scoops, des
un peu scabreux,
des potins, puis tout ça. Et lui, il jouait sur les deux tableaux. En d'autres termes, il sortait des potins parce que pour vendre des copies et faire de l'argent. Mais à un moment donné, avec des alliés comme Trump, il utilisait son poste du National Enquirer pour obtenir des potins. Puis après ça, il s'arrangeait pour les tuer, là, t'sais, noyer le poisson.
Oui.
Mais là.
C'est ce qu'on appelle en anglais du catch and kill.
Catch and kill. Tu trouves l'histoire, puis t'as fait disparaître.
Oui, il allait acheter l'exclusivité, ni plus ni moins. C'est comme s'il faisait une belle recherche journalistique. C'est comme si, je sais pas, on avait un scoop sur un ministre ou sur quelqu'un d'important ici à Cube Radio ou au Journal de Montréal. On s'en va, on enquête, on fait les entrevues, on prend tout, on dit vous allez voir, on s'en occupe. Puis après ça, plus rien. Silence radio total.
Mais et dans ce cas-ci, ben là, lui avertit Trump, regarde, ça va te coûter tel prix, il va falloir que tu fasses, t'sais, moi je peux tuer l'histoire, mais il va falloir que tu payes madame, là, parce que sinon on va aller la raconter à quelqu'un d'autre, là, t'sais.
Voilà. Et donc, ben c'est de cette manière-là qu'aurait procédé le National Enquirer, puis c'était pour ça qu'aujourd'hui, M. David Pecker devenait un très gros premier témoin quand même dans cette histoire-là, qui était entendu, puis c'est pas fini, hein, parce qu'on va avoir Stormy Daniels elle-même qui va venir témoigner, ce qui va être, on se comprend, un témoignage excessivement attendu, parce que...
Puis on sait pas comment elle va témoigner, parce que les dernières fois qu'elle a parlé, là, elle avait donné toutes sortes de détails, incluant sur le physique de monsieur... On avait dit qu'elle prenait plaisir à dire toutes sortes d'affaires, elle l'humiliait.
Elle avait entre autres comparé l'engin de M. Trump au personnage de Super Mario Toad, l'espèce de petit bonhomme champignon. Ouais, elle avait comparé à ça entre autres. Donc, si elle est aussi colorée dans un témoignage de cour, ça promet, Mario.
Ouais. Bon, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit aux Québécois, ça a fessé, là.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Alors, tu me parles de tes inquiétudes pour l'état du français. En fait, il y en a eu toute la fin de semaine. Ben, écoute, d'abord dans le journal sur le français hors Québec, là, dans les oui, autres provinces. Et ce matin... C'est oui, carrément chez nos jeunes, mais ça, les jeunes, on le sent, là, dans les écoles secondaires françaises, ça parle anglais dans les corridors.
Complètement, puis ce qui est très étonnant là-dedans, puis en même temps, ben, on le sait parce qu'on s'en rend compte, on essaie de se rassurer parfois, de dire que c'est dans des lieux où, qui sont plutôt d'allégeance anglophone, où les jeunes anglo, par exemple, ont moins tendance à apprendre ou à vouloir parler le français. Mais là, ce qu'on voit, c'est que finalement, tu sais, quand tu parles de Vaudreuil, d'Orion, c'est tout près de Montréal. T'as beau dire, c'est comme la cour arrière du West oui, Island. Ou
c'est ce qui se produit. Les bon, gens qui n'ont plus les moyens de racheter dans le West Island traversent juste l'autre côté.
Voilà, c'est ça. En même temps, il y a des... Tu sais, moi, je voyais dans cet article qui était vraiment intéressant, juste pour voir vers quelle posture... on se dirige vers... C'est qu'il y a des jeunes francophones qui le disent, là, de langue française. Leurs parents sont francophones, hein, mais qui disent « C'est juste inconvenient pour moi de parler français. » Juste cette phrase-là, écoute, elle est arrache-cœur. Moi, je lis ça, puis je me dis... Puis l'anglais partout, puis le fait que c'est devenu l'anglais beaucoup, parce que j'ai cette conversation avec mes filles qui me disent « Ben oui, maman, mais tu sais... » Puis elles sont là-dedans aussi, tu sais, même s'ils ont une mère qui, depuis qu'elles sont petites, qui les reprend et tout, encore aujourd'hui, on peut-tu le faire en français, s'il vous plaît? Je suis un peu la mère fatigante là-dessus. Puis elles me disent, mais qu'est-ce que ça fait? Tu sais, on est francophones pareil, mais on parle anglais parce que l'anglais, c'est facile. L'anglais, c'est la langue du travail. C'est ça qui nous attend. C'est l'anglais sur les réseaux sociaux. C'est l'anglais sur Internet. Puis sincèrement, je comprends ça. Je comprends ce que les jeunes disent. Quand les jeunes disent...
Mais il y a une petite coche de plus, là. C'est que c'est à la mode. C'est que...
Je vais même aller plus loin,
Mario. C'est un poil de dire que parler français, c'est ringard, là.
J'allais, là. J'allais dire qu'aujourd'hui, c'est même... Tu sais, l'expression « keb », là. Aujourd'hui, parler français, c'est être un keb. Puis être un keb, c'est pas un compliment dans la
rue. C'est être local. Ah, c'est les être... autres sont internationaux, puis toi, t'es un petit local.
Ouais, mais c'est même désobligeant. Moi, je l'entends désobligeant. Un keb, c'est un jugement. C'est, en général, écoute, si tu vois, là, sur, il y a des sites là, qui font des blagues de keb, c'est colon, pas futé, pas vite-vite, gnochon. Ils n'ont pas de culture, savent pas parler, puis quand ils parlent leur langue, ils parlent tout croche. C'est ça, le keb. En général, il vient du Québec profond, il y a aucun, il comprend rien, c'est comme « duh ». Tu sais, c'est vraiment, c'est une image qui n'est pas une belle image du Québec, qui, à mon avis, n'est pas du tout keb. Pour moi, c'est pas le diminutif de québécois, là, ou québécois. C'est pas
non,
du
non,
tout.
Je comprends bien.
Ça a une connotation qui est assez inquiétante, à mon avis, et qui est désobligeante, et qui malheureusement, est de plus en plus utilisée même par des jeunes francophones qui vont se traiter de keb entre eux, mais, tu sais, il faudrait peut-être qu'ils comprennent que c'est pas un compliment. Mais quand je vois ça, tu te dis, OK, l'anglais partout, visiblement, tu sais, il y a plein de collègues qui ont écrit là-dessus, Loïc qui parlait même de toute cette dissolution numérique du français avec le fait que si t'es sur Internet, ben t'écoutes, je réfléchis beaucoup à ça, puis je me dis, c'est vrai que si mais tu veux sortir des murs du Québec...
Loïc arrive avec des chiffres sur dire, le nombre de sites Internet de contenu en anglais
est
deux à trois fois plus élevé que le pourcentage de locuteurs anglophones du monde sur Terre.
Ah non, mais c'est un dirou qui est en train de nous passer dessus. Je te jure, là. Moi, ça m'inquiète profondément. Puis, en disant ça, je me dis, c'est-tu parce que je suis une EX, puis j'ai plus 50 ans, puis que moi, je suis immigrante, mes parents ont choisi le Québec, terre d'accueil francophone. Tu sais, on aurait pu aller en Australie. Aujourd'hui, je parlerais comme une Australienne. Mais ça serait l'anglais. Tu sais, j'aurais été noyée là-dedans. Non, mais ils sont venus ici parce qu'ils voulaient l'Amérique et qu'ils voulaient une Amérique francophone. Alors oui, l'Amérique, ça veut pas dire qu'on n'est pas bilingue, mais ça veut dire qu'on rêve et on se propulse en français.
Mais je pense que ce qui fait mal présentement... Bon, d'abord,
on est-tu les derniers Mohicans,
nous, là? Il y a une part des nouveaux arrivants, parce qu'il y a un enjeu sur les nouveaux arrivants. Ouais. S'intègre-t-il à l'anglais et au français? Il y en a une part, peut-être plus importante qu'on pense, qui s'intègre à l'anglais. Quoique, avec tous les efforts de la loi 101, il y en a beaucoup qui s'intègrent au français aussi.
Oui, mais je leur mettrais pas tout ça sur le dos.
Ce dont on se rend compte en plus, c'est qu'il y a maintenant de l'assimilation. Donc là, c'est plus des nouveaux arrivants.
Mm-hmm.
Il y a des enfants de Québécois francophones.
Ouais.
Qui parleront plus, qui vivront plus en français.
Complètement.
Dans l'ouest de Montréal, Québec.
Pas juste dans l'ouest, je dirais. Moi, je dirais. Ouais, mais même, tu sais, que ce soit moi.
Non, mais c'est Montréal, là.
C'est Grand Montréal. Mais tu sais, Grand Montréal, c'est toute la région métropolitaine de Montréal. Tu sais, Vaudreuil, tu peux parler de Laval,
Laval,
ça va loin.
Le Brossard,
va à Saint-Jérôme aujourd'hui, là. Tu sais, va Moranite et Saint-Sauveur, là. Tu sais, les belles histoires du pays d'en haut, là. Il y a beaucoup d'anglophones maintenant aussi, là. Puis va en Estrie, l'Estrie en partant là, Eastern Township.
Mais l'Estrie, c'est moins anglophone. Ça, c'est le contraire. C'est moins anglophone que ça l'était il y a 50 ans.
Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'étaient intéressés et qui se sont installés là. Mais il y a tu le sens, là, tu sais. Hein? On le sent, là, que parfois, il y a encore la chicane anglo-franco, là, est vivante. Fait que je pense qu'on s'en sortira pas. Mais moi, ce que je crains, et je pense que ce qu'on voit, puis il faudrait être aveugle pour ne pas reconnaître ça. Puis c'est même pas politique. Je te parle pas comme nationaliste. Moi, je suis pas indépendantiste. Fait que regarde, je te parle même pas, là, oh, ça nous prend un pays pour qu'on y arrive. Moi, je crois pas à ça. Je vois pas là. Mais je suis nationaliste, puis je pense qu'il faut qu'on reste profond. Mais on peut être nationaliste, fédéraliste, tu comprends? Pour moi, c'est pas une question de politique. Pour moi, c'est une question de dans quelle langue tu veux t'exprimer et dans quel environnement linguistique tu veux vivre. Moi, c'est en français. C'est-tu trop demandé ou, tu sais, se faire dire, comme Sophie Durocher qui écrit aujourd'hui, qu'elle s'est fait dire dans un cours de yoga qui est en anglais, « Hey, learn English, it's a bilingual country ici, là. » Ben voyons donc, t'es à Montréal dans un cours de yoga, on peut-tu...
Mais dans leur tête, ça devrait se passer en anglais, personne...
Mais tout devrait, il y a toujours des gens comme ça, mais moi c'est lunaire, tu sais, moi mes filles sont allées dans des écoles dites bilingues, et j'avais des conversations avec des parents nés ici, là. Moi à la rigueur, je suis même pas née ici, t'sais. Mais je suis francophone, je suis née en France, mais des gens nés ici, qui ne à Montréal, qui ne parlent pas français, moi, ça me dépasse.
C'est incroyable.
Comment tu peux... Moi, j'ai vécu 5 ans à Toronto, puis on me disait, « Hey, speak quiet, là, puis tout le temps les mêmes mots. » T'sais, j'avais intérêt à parler leur langue. Fait que pourquoi cette espèce de libre-échange n'est pas valable quand il s'agit des francophones? Moi, je pense qu'il y a un biais négatif de certains anglophones. Je fais attention à comment je le dis parce que j'en connais plein d'anglophones qui sont tout à fait ouverts aux faits français, qui sont des francophiles, qui ceux-là maîtrisent la langue. Ceux-là sont... T'en connais. Mais là, je vois qu'on assiste et c'est encore nié et beaucoup trop débattu, à mon avis. Puis on perd du temps que ça retarde le groupe. On va vers une lente disparition du français. Dans 20-25 ans, c'est ça qui nous pend au nez.
Au Canada, ce matin, là, je faisais les chiffres. Ouais. Le Canada incluant le Québec le Canada hors Québec, les 9 autres provinces. Mais tu sais, les courbes de parlants français, là, ça s'en va comme ça. Là, ça descend,
Les pauvres Canadiens français, les pauvres là, francophones hors Québec, là, qui essaie de survivre. Moi, j'ai vécu plusieurs années aussi dans le sud-ouest de l'Ontario et je peux te dire que ça se battait là, pour la préservation de leur langue il y a 30 ans. Imagine aujourd'hui.
Mais ça marche pas.
On parle beaucoup de la louisianisation, puis c'est toujours un concept qui est un peu souvent amené par le PQ, que ce soit Pauline ou d'autres qui ont amené cette idée-là. Lise Payette avait fait son documentaire il y a plusieurs années sur le fait qu'on allait tous être appelés à disparaître, puis on avait parlé d'un grand mouvement là, de faire peur au monde. Mais moi, je pense que il y a les chiffres, mais il y a aussi le quotidien. Puis ce que nous disent les jeunes, c'est qu'eux, ils n'ont pas cet attachement que visiblement je te décris, que toi puis moi, on a profondément pour notre langue, qui est une langue particulière, qui est très distinctive du Québec, qui nous empêche pas d'être compris ailleurs, qui est une bonne et belle langue. Mais eux, ils n'ont pas cet attachement-là.
Mais si on saute une génération qui n'a pas l'attachement,
c'est fini. Fait,
à mon avis, une génération
ça.
Qui n'a pas l'attachement, puis c'est tout fini.
Ça,
c'est le dossier clos.
C'est
là.
Fini, puis ça sera une langue du terroir. Puis, my mom used to speak French. Yeah, well, sorry, I don't know, didn't get it. J'avais d'autres choses à faire, j'étais trop sur Internet en anglais. Voyons, tu sais, c'est... Et moi, ça m'inquiète, puis je sens qu'on est de moins en moins nombreux, puis que c'est beaucoup une question de génération. Et moi, je me dis, OK, comment on peut brasser la nouvelle génération pour l'embarquer dans notre affaire? Comment on peut faire ça? J'ai pas la réponse. Si quelqu'un l'a, j'aimerais ça qu'on parle quelque chose.
Merci, Isabelle.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour, Francis.
Salut, Mario.
Alors, les syndiqués d'Airbus, c'est non à leur nouvelle convention collective. Ils tiennent ferme. Est-ce qu'ils prennent un gros risque?
Ben, je pense que oui. Puis en fait, la nouvelle, c'est pas qu'ils aient dit non. Ça fait déjà quelques jours qu'ils ont refusé la troisième offre patronale. Mais là, apparemment, la partie patronale ne répond plus au téléphone. Je charrie un peu, là, mais je pense que du côté d'Airbus, là, on ne comprend pas. Là, après 3 rondes de négociations et une dernière offre qui était quand même très bonne, là, selon toutes les parties qui ont été consultés, le syndicat a quand même refusé à 66 % d'entériner la dernière. Et donc là, il y a comme plus de son, plus d'image là, du côté d'Airbus. C'est de demander, là, bon, je pense pas qu'ils vont fermer l'usine, mais je pense que c'est vraiment une situation un peu périlleuse là, pour les employés d'Airbus qui se sont mis dans une situation un peu difficile actuellement.
Mais qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Ou est-ce qu'ils pourraient les mettre en lockout pendant plusieurs mois? Ils ont besoin de la production?
Oui, ils ont besoin de la production. Il y a 600 appareils, je pense, en commande, Mario. Là. Donc, effectivement, ils pourraient difficilement arrêter, mais ils pourraient... Je sais pas quels sont les recours, mais en tout cas, pour l'instant, les négociations ne se poursuivent plus. Puis c'est même le syndicat là, qui fait des pieds et des mains là, par journaux interposés, notamment, pour dire « on veut toujours négocier ». Mais là, on voit que la balance du pouvoir a un peu changé de côté dans cette affaire-là. Puis j'en parle évidemment aussi, Mario, tu le sais, parce que le Québec là, a une partie prenante là, avec 25 % de la participation dans le projet, puis la rentabilité du programme va faire varier la valeur du placement de Québec.
Mais qu'est-ce que tu comprends des... Parce que, il me semble que j'ai toujours entendu que c'était d'excellents emplois, bien rémunérés. Il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose que les travailleurs se sentent maltraités. C'est-tu les horaires? C'est-tu qui...
Il y a plusieurs éléments, Mario, là, qui achoppent. Évidemment, les salaires eux-mêmes là, font partie de ce qui a été négocié, le recours à la sous-traitance. Mais ce que j'entends puis ce que je lis dans les différents médias, c'est que là, l'employeur là, aurait bonifié sur tous les plans pratiquement à la demande des travailleurs. Il y aurait même une clause qui aurait été incluse pour le partage de connaissances, là, ce qui me semble, Mario, est une prime à pas grand-chose, à faire son travail là, éventuellement. Donc, c'est pas comme s'il y avait de la mauvaise foi de part et d'autre. Et pourtant, le syndicat continuent de refuser là, à la forte majorité toutes les propositions qui sont mises devant la table. C'est sûr qu'on sort d'une période, Mario, où la main-d'œuvre avait le gros bout du bâton, là, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer là, actuellement. Le marché du travail n'est plus aussi tendu qu'il ne l'était. Puis si les travailleurs s'obstinent à refuser des offres qui sont quand même alléchantes, comme tu dis, avec des conditions de travail très avantageuses, ça pourrait se revirer contre eux éventuellement.
Il y a eu beaucoup d'achalandage au Salon de l'emploi de Montréal.
Il y a peut-être un lien entre ceci ouais. et cela, Mario. Effectivement, ben comme tu le sais, là, c'était un salon qui était pas très populaire depuis quelques années. Là, puis c'est pas dire que c'était pas bien organisé, mais évidemment, on était dans une situation de plein emploi au Québec, donc ça se tenait bon an, mal an. Mais là, cette année, ce qu'on voit, là, c'est que il y aurait à peu près, selon les organisateurs, le double des participants là, qu'il y avait l'année dernière au Salon de l'emploi de Montréal. Donc, on parle juste pour la région montréalaise là, d'à peu près 20 000 emplois à pourvoir pour laquelle il y aurait eu déjà là, près de 8 000 personnes qui se seraient présentées dans la première journée. Il y aurait j'ai pas pu voir le Mario personnellement, mais des files qui font plusieurs corridors là, comme on n'a pas vu depuis longtemps là, pour déposer.
Donc, tout à coup, il y a des gens qui cherchent de l'emploi, là.
Ben ouais, puis tu sais, on le voit, le taux de chômage est pas particulièrement élevé, mais il est plus qu'il ne l'a été depuis quand même un bon moment, Mario. Et puis c'est certain que ça fait en sorte qu'il y a des gens, soit qui sont actuellement sans emploi, soit qui craignent de le devenir dans les prochains mois, là, qui actuellement ben font des démarches un petit peu plus proactives pour préparer le coup. Puis c'est ce qui est intéressant, ou enfin inquiétant même, je pense, Mario, c'est que il y a beaucoup de jeunes là, qui sont présents là-dedans, donc la baisse de l'emploi, là, comme on l'a vu dans les derniers chiffres de l'emploi de Statistique Canada, touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans. C'est précurseur de difficultés là, à venir pour ce segment de clientèle-là. Et donc, c'est évidemment ceux qui sont les plus présents là, dans ce type de foire-là, tel qu'on présente ces jours-ci au Palais des Congrès de Montréal.
Les faux gagnants ou ceux qui n'ont eu que l'espoir du concours déroule le rebord là, de Tim Horton.
As-tu gagné, Mario?
Non, j'ai pas participé, j'ai pas l'application. Je vais très rarement dans ce genre de restaurant. Je prends généralement mon café dans des bureaux.
Un gars du bas du fleuve, pourtant, je me serais dit que...
Non. Ben, t'es pas quand je suis sur le bord de la route, là, mais donc, non, je suis pas un régulier. Fait que j'ai pas participé, mais donc, les gens intentent carrément un recours collectif.
Effectivement, ben, tu sais, je rappelais les faits rapidement, là, puis ça a quand même fait un peu les choux gras ces derniers jours dans les médias, Mario, depuis vendredi, mais tu te rappelleras là, que chez Tim Hortons, il y avait à une époque une manière de dérouler le rebord de sa oui. tasse de café, puis il y avait des différents prix qui étaient assortis avec ça. Aujourd'hui, il y a toujours cette partie-là qui existe, mais évidemment, de plus en plus, la transaction est faite de manière numérique là, avec les clients, donc on utilise l'application, et comme on peut dérouler, mais il y a aussi une manière de gagner qui est donc dans l'application.
Déroule virtuellement.
Exactement. Et donc, par erreur, Tim Hortons aurait envoyé à 500 000 personnes un courriel de confirmation leur indiquant qu'ils auraient gagné un bateau. Donc, je sais pas si c'est un petit bateau, là, je connais pas beaucoup.
Ben, un bateau de pêche de 65 000 piastres, là, je considère que c'est un très, très, très beau bateau de pêche. Là.
Tu sais, c'est pas un yacht là, pour aller faire la grande.
Non, c'est un bateau de pêche. Mais c'est un bateau de pêche top niveau en termes de qualité. Là.
Exactement. Et donc,
je le prendrai, je te le dis tout de suite.
Sans doute. Donc, comme tu dis, c'est une valeur de 64 000 $. Donc, c'est ça, 500 000 personnes qui auraient reçu ce courriel-là, dont plusieurs Québécois, plusieurs qui étaient convaincus là, que c'était eux les heureux élus.
Tu reçois le message de la compagnie.
officiel de la compagnie. Et puis évidemment, ben ça fait des heureux pendant quelques heures. L'entreprise par contre s'est rétractée là, peu de temps après avoir fait l'erreur. Et donc là, la question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un droit qui existe, Mario, légal de réclamer ces prix-là? Donc il y a un Québécois là, et son avocat qui ont intenté un recours collectif en Cour supérieure du Québec pour obliger l'entreprise à verser le prix. Puis ce qu'il dit, c'est évidemment 500 000 bateaux, ça fait pas mal de bateaux, là, Mario. Fait qu'à la limite, je suis prêt à accepter l'argent. Ce qui fait, et avec 10 000 $ de pénalité. Et donc, j'ai fait un petit calcul rapidement. Mario, le 75 000 $ fois 500 000, ça fait comme 32 milliards de dollars. Donc, je pense pas que l'entreprise va accéder là, à cette demande-là tout de suite. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ça va se dépoter. Je sais pas si ça te sonne une cloche, Mario, mais dans les années 90, il y avait Pepsi qui faisait un concours où tu peux ramasser des points et il avait promis de livrer un jet, un Harriet jet, si tu récoltais quelque chose comme 10 millions de points. Et il y a tout un documentaire sur un gars qui a, par une manière, là, recueilli 10 millions de points et est allé chez Pepsi, il a dit « Je veux mon jet ». Et ça s'est retrouvé devant les tribunaux.
Ah oui, et il nous reste 10 secondes pour la conclusion.
Il n'a pas eu son jet.
Ah, quel mauvais augure pour les bateaux. Salut Francis, voilà. Merci.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Cube Radio.
Cube Radio. En direct à LCN. À LCN.
On a envie de dire pauvre français. Hein? Le français qui n'a plus la cote auprès des jeunes. Ça fait un petit moment. L'anglais s'impose de plus en plus dans les écoles francophones. Le ministre Drainville pense que l'afflux de demandeurs d'asile n'aide pas. Premier sujet de notre joute. Nos analystes vont nous dire comment ils voient les choses. Good evening tout le monde.
Bonsoir, Sophie.
On sent pas beaucoup de fierté hein, par rapport à notre langue, hein, pas très in le français, mais l'intervention du ministre Drainville a surpris aujourd'hui.
Si on n'est pas capable de franciser les nouveaux arrivants et si la première langue vers laquelle ils se tournent, c'est l'anglais, bien, ça crée un climat, un environnement dans l'école où l'anglais est davantage parlé que le français.
Alors, il y a ça. Et le ministre Drainville a aussi ajouté qu'il n'exclut pas de punir des élèves qui ne parlent pas français en classe. Est-ce que c'est la chose à faire? Première question. Mario.
C'est pas, à mon avis, la meilleure intervention de l'année, là. D'abord, les demandeurs d'asile comme réponse à tout, je suis le premier à le voir, là, le problème des trop grand nombre de demandeurs d'asile, ce que ça cause
les
comme ennui.
Large,
dans ce cas-ci.
Ils ont le dos large.
Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça, là. C'est un autre phénomène. On est à Vaudreuil-Dorion, par exemple, ce matin, le reportage du journal, on est à Vaudreuil-Dorion. Et il arrive ce qui arrive, là, des jeunes, l'anglais est omniprésent dans leur vie, dans leurs réseaux sociaux.
C'est ça,
et c'est malheureux à dire, mais c'est devenu comme un peu ringard de parler français, de défendre le français. C'est comme t'es un petit vieux comme ton grand-père qui tient au français, alors que si on est jeune, on est moderne, on est international, puis ça se passe en anglais. Et ça, puis punir les jeunes, là, ça... On n'est pas plus avancé, là, tu sais. Ça devient en plus que le français, tu le parles de force pour pas être puni.
Il faut donner le goût du français. C'est beaucoup plus
simple. Oui, mais c'est très difficile, moi, je pense, aujourd'hui. Nous, en tout cas, Mario, moi, nous, on est de la génération où nos parents sont battus contre la madame de chez Eaton qui parlait en anglais, tu sais. Donc, pour nous, là, c'était comme drillé dans notre tête, là, tu sais, qu'il fallait défendre le français, c'était important, c'était notre identité, c'était ça. Mais la réalité, c'est que je suis plus certaine que ça fait partie du psyché collectif pour une raison très simple. Moi, j'ai fait tout mon secondaire dans une école où les francophones pure laine, on était une minorité. La majorité des élèves rentraient chez eux puis ils parlaient anglais, portugais, persan, n'importe quoi, mais ça parlait français à l'école. Puis non seulement ça, la majorité ont fait leur cégep en français, sont allés à l'université en français après. C'est cette dynamique-là qui a changé. Moi, je pense que c'est bien facile de blâmer les immigrants puis les demandeurs d'asile pour pas avoir à être confronté à l'erreur de pas avoir imposé la loi 101 au
cégep. Qu'il y a des problèmes dans certaines écoles, soit particulièrement à Montréal, mais à Vaudreuil-Dorion, et je pense que Mario et Emmanuel ont tellement raison. Mm. C'est un phénomène qui est beaucoup plus global que ça. Puis l'attrait du français, punir de quoi, puis punir comment? Là, je pose la question. L'école n'est pas un camp de rééducation, là, soit dit en passant. C'est un lieu d'éducation. D'autre part, il y a aussi le fait, l'attrait est mondial de l'anglais. J'ai vécu, moi, avant Mario et Emmanuel, j'ai vécu cette période-là. Je me souviens, dans les années 70, où les chiffres démontraient l'assimilation. La madame, l'anglophone de chez Eaton, on se faisait servir en anglais uniquement au centre-ville de Montréal. Il y avait un sentiment d'urgence qui a émergé, qui s'est traduit ensuite par des changements politiques profonds à Québec, la loi 101 notamment. Il y avait donc une prise de conscience. Et sans ça, sans le sentiment de danger de perdre notre langue et notre culture, ça va être très, très difficile de renverser la situation.
Ben, c'est ça la question. Ouais. S'il y a une génération qui ne trouve pas ça important, mettons qu'on saute une génération qui ne sent pas ce devoir sacré de préserver le français, mais qui dit, c'est pareil, France. Mm. À mon avis, c'est fini. Là. Une génération qui ne s'en occupe pas, puis c'est les siècles précédents qui s'effacent. Là.
Ouais. Ils vont à l'université en anglais, tu maries un anglophone, ça prend deux générations de personnes qui parlent.
Et voyez le taux d'assimilation. Le journal l'a parfaitement illustré. Ouais. Mario t'en parlait ce matin avec tes tableaux. Regardez ce qui s'est passé ailleurs au Canada. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Évidemment, nous, il y a un noyau important de francophones, mais une génération, deux générations, si on ouvre les digues, ça peut aller très vite.
Alors, mes vieux amis, passons au deuxième sujet. On assiste à un nouveau bras de fer entre les maires et le gouvernement. Là, ce qui est en jeu, c'est l'énorme déficit du transport en commun de la région métropolitaine, un trou de 561 millions pour 2025. On écoute le premier vice-président de l'UMQ.
On va se dire la vérité. Je pense qu'il n'y a aucun maire ce matin qui est content de dire qu'il y aurait une possibilité d'augmenter les taxes ou les frais de matriculation. Cependant, il faut comprendre qu'il y a un déficit qui est énorme. Et ce déficit vient de où? Bien, c'est le sous-financement qui vient de la part du gouvernement du Québec.
Les maires étudient de différents scénarios, vous allez les voir, là, qui visent directement votre portefeuille. Encore une fois, vous voyez les hypothèses, là, hausse de taxes d'immatriculation, les tarifs des usagers. Le troisième scénario là, qui nous mène à une hausse de 280 % des taxes en question. Avez-vous l'impression de rejouer un peu dans le même film?
Moi, je vous dirais, Sophie...
Il y a un bras de fer.
Il y a un bras de fer sur qui va porter le chapeau de Taxer Plus. Mais objectivement, là, faudrait peut-être commencer par, tu sais, pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'on veut du transport en commun au Québec? Mm-hmm. Est-ce qu'on s'attend à ce que la personne qui habite à Verchères paye pour le déficit de la STM sur l'île de Montréal?
Oui, c'est la grande question.
Est-ce qu'on s'attend à ce qu'à Verchères, on a un aussi bon service que sur l'île de Montréal? Mm-hmm. Je veux dire, à un moment donné, si tu ne règles pas ces questions-là, on tourne en rond. Ouais,
question d'équité, là aussi. Là.
Bien, il y a deux questions fondamentales préalables. Quel niveau de transport en commun, comme société, on veut se donner? Est-ce qu'il y a ce qui est en place à l'heure actuelle est suffisant? Oui, non. Est-ce suffisamment financé? Oui ou non? Est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de déploiements dans des endroits où il n'y a pas vraiment de demande? Je pose la question. La deuxième, c'est qu'il y a une vérification interne qui est faite dans les sociétés de transport pour voir si chaque dollar qui est prélevé dans les poches des gens qui nous écoutent est utilisé correctement. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle des gains d'efficacité? Est-ce qu'il n'y a pas des pertes en ce moment? Et tant qu'on n'aura pas le portrait de la situation, pourquoi lancer de telles augmentations? On parle de tripler les frais d'immatriculation. Tripler!
Les maires parlent de sous-financement, mais tu sais, sous-financement, des fois, ça peut être une façon de dire, OK, tu manques d'argent, mais ça peut être qu'il y a de la surdépense. Mm. Et une des choses qui fatigue le gouvernement du Québec, c'est de dire, bien, dans les sociétés de transport, on a signé des conventions collectives, on a versé des salaires là, pour des responsabilités ou des diplômes équivalents au gouvernement du Québec, on paye 30-40 % de moins. Mm. Et là, on dit, OK, si les maires ont signé ça, les sociétés de transport dépensent grosses, ont construit des gros garages, est-ce que aujourd'hui l'ensemble des contribuables doit payer pour ça? Ouais. Alors là aussi, il y a un examen à faire.
Oui, on va voir comment ça va se terminer, tout ça. Un nouveau sondage qui jette un éclairage inédit sur l'opinion des Canadiens à l'endroit de Justin Trudeau et de Pierre Poilievre. J'ai hâte de votre très hâte de vous entendre là-dessus. Vous présentez les résultats au retour. Restez avec nous.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Alexandre, les gendarmes, la police française qui lance un avertissement.
Oui, particulièrement les gendarmes de la Haute-Vienne qui sont allés avertir la population d'un même avertissement qu'ils font chaque année, à peu près, en disant ben attention aux chevreuils. Puis là, une perspective québécoise, on va dire ben oui, faites attention aux chevreuils quand on est en auto, c'est normal.
Il y a beaucoup d'accidents avec des chevreuils parce qu'on est en surpopulation dans la moitié du territoire du Québec.
Peut-être, mais sur le territoire français, ce dont on s'inquiète, ce n'est pas la surpopulation nécessairement, mais c'est plutôt le taux d'alcoolémie des chevreuils.
Voyons.
Les chevreuils chauds raides qui vont ses routes, Mario. C'est une des principales préoccupations. Puis ça revient à chaque année parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les chevreuils, dans la forêt, c'est pas qu'ils trouvent une coupe de Smirnoff qui traîne, là. C'est plutôt qu'ils s'en vont manger des bourgeons. Puis les bourgeons, au début, comme ça, là, du printemps...
Ça fermente dans l'estomac, c'est...
C'est excessivement sucré. Un bourgeon, disons, on n'en mange pas, on le sait pas, mais comme c'est des ruminants, mais c'est ça. Ça s'en va dans l'estomac, puis ça reste là, puis ça fermente. Ce qui fait en sorte, mais qu'il y a un contenu alcoolisé qui se crée dans l'estomac des chevreuils qui deviennent garlots. Littéralement, garlots. Il y a des chevreuils qui sont en état d'ébriété, puis à ce moment-là, ben, qui vont rentrer ces routes, qui vont s'aventurer dans les cours des gens, qui vont des fois même tomber.
Il me semble d'avoir un chevreuil devant les phares de l'automobile, mais tu sais, avec les yeux comme...
Exact.
Plutôt que ben fixe, là.
Ben voilà, puis c'est ce qui arrive, ça fait en sorte qu'on est obligé d'émettre un avertissement en France. Ça me faisait beaucoup rire, d'ailleurs, de voir qu'il y avait des
mais il y a vraiment des avertissements de chevreuil en état d'ébriété.
Avertissement de chevreuil en état d'ébriété, puis comme je dis, c'est que ça vient le même jour où on confirme une autre histoire juste à côté, en Belgique, mais cette fois-ci, c'est un homme qui produisait de l'alcool dans son estomac. Et oui, il y a un homme qui a été acquitté en ayant été reconnu comme l'une des rares personnes sur la planète à avoir le syndrome de l'autobrassage, Mario. Syndrome de la fermentation, de l'auto-fermentation.
C'est quoi, t'as des fruits qui restent trop longtemps dans l'estomac, que tu digères pas vite?
C'est un syndrome rarissime. On dit qu'il y a une poignée de personnes officiellement qui ont ça, là, beaucoup, probablement beaucoup plus, mais qui s'en rendent pas compte et qui, lorsqu'ils ont une alimentation qui est riche en sucre, en glucides, qui vont manger du pain, entre autres, mais ça fermente puis deviennent en état d'ébriété.
Merci, Alexandre.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Oui. Alors, mauvaise surprise peut-être pour bien des contribuables des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Vos maires, pour les gens qui habitent ce secteur, ont écrit au ministre des Finances et à la ministre des Transports pour dire que le financement du transport en commun était devenu réellement problématique au point où ils évaluaient des options pour financer autrement. Puis, ben, dans les options, il y a toutes sortes de contributions, contributions de chacun, mais il y a contribution de l'automobiliste. Et ça, c'est l'immatriculation. Il y a déjà un 60$ dans le Grand Montréal pour financer le transport en commun. Mais que le 60$ qu'on pourrait augmenter, option A, de 100%, ça, c'est la petite. Option B, de 200% ou option C, de 280%, la faisant monter de 60 à 228 par année. Mon chef dérégé, député de Néligan pour le Parti libéral, porte-parole de la position officielle en matière de transport, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Dumont.
Est-ce qu'augmenter les immatriculations pour les contribuables est une option que le Parti libéral considère qu'il faut regarder?
Bah, pas du tout, pas du tout. On va pas assister à la taxe Geneviève Guilbeault après la taxe Trudeau Logo de vendredi dernier. Je pense que les contribuables québécois payent déjà leur part. Malheureusement, c'est l'incompétence de ce gouvernement qui a dilapidé l'argent public. Il faut juste le rappeler qu'on partait de très loin. 7 milliards de dollars en surplus et on se ramasse avec 11 milliards. Donc, c'est vraiment l'incompétence de ce gouvernement qui pousse les villes à chercher des options. Mais malheureusement, je ne vois pas le leadership de Mme Geneviève Guilbeault en matière de transport collectif depuis qu'elle a été nommée ministre du Transport.
Mais parlons de ça. Et qu'est-ce que vous reprochez, Mme Guilbeault? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ces dossiers de transport en commun, à votre avis?
Nous assistons la deuxième année au même scénario. Elle savait très bien que les sociétés de transport et les villes réclament des discussions, réclament des rencontres avec elles depuis un bout. L'année dernière, ils ont utilisé la même chose à la veille du budget des villes. Ils ont débloqué quelques sommes. Madame la ministre est en train de gagner du temps. Vous savez, il y a même des gens qui disent est-ce que lors du prochain remaniement, il ne sera plus ministre du Transport. Il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent. Elle est tout courant de ce qui se passe dans les sociétés de transport. Et donc, écoutez, quand tu n'as pas le courage de dire que je vais augmenter les taxes et les impôts des citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour déléguer la taxe Geneviève Guilbeault aux villes. Et maintenant, les villes, elles cherchent par tous les moyens de compenser le vide et le manque à gagner qui est de l'ordre de 500 millions de dollars. On ne parle pas d'augmenter l'offre, on parle juste de combler le déficit et le trou budgétaire.
Mais quand on parle de déficit, les maires, là, je les comprends, la position où ils sont, eux, ils parlent de sous-financement. Mais le sous-financement, ça peut être aussi, oui, ça peut être la conséquence qu'il te manque de revenus, il te manque de financement. Ça peut être aussi la conséquence que tu dépenses trop. La ministre, depuis un certain temps, leur dit, écoutez, les niveaux de dépenses, les salaires, les conventions collectives qui sont payées dans les sociétés de transport, on paye plus cher, on donne des meilleurs salaires que le gouvernement du Québec lui-même donne à ses employés. Est-ce qu'il n'y a pas du côté de la gestion un travail qui doit être demandé aux villes, mais aux sociétés de transport gérées par les villes?
C'est le cas déjà. C'est le cas déjà. La plupart, ils l'ont clairement dit. Écoutez, on va travailler pour l'Audi. Mais vous savez, vous êtes un économiste. Pensez-vous réellement qu'il y a un manque à gagner de 500 millions de dollars? La plupart des sociétés de transport, même après l'Audi, on ne peut pas prétendre les conclusions, mais... On va faire une hypothèse. On va aller chercher du coup 40 ou 50 millions de dollars. On est très, très loin de 500 millions de dollars. Donc, clairement, quand on est ministre de la mobilité durable, on est au courant de ce qui se passe. On est au courant des dépenses. On a une idée sur les enjeux. Et on n'a même pas parlé de le dossier d'électrification du transport. C'est un dossier, Monsieur Dumont, que je suis très, très bien. On est dans les 13 milliards. Le gouvernement n'a même pas 5 milliards. Et il pousse les sociétés de transport à créer des garages qui nous coûtent dans les 800 millions parce qu'il veut réussir le garage, il veut réussir le virage de l'électrification du transport. Mais tout cela exerce une pression énorme sur les finances des sociétés de transport. Et c'est de là où moi, aujourd'hui, j'ai dit clairement qu'il y a un manque de leadership. La ministre ne peut pas fuir le débat. Et les ministres du transport et les ministres de la mobilité durable, il ne peut pas déléguer la taxe Geneviève Guilbeault aux villes. Il doit prendre le temps, s'asseoir avec les villes, s'asseoir avec les sociétés de transport, parce que clairement, il y a un enjeu là, enjeu très sérieux.
Est-ce que c'est ça la conséquence pour vous de la lettre envoyée aujourd'hui, expédiée aujourd'hui par ces maires, une rencontre au sommet entre la ministre des Transports et les élus municipaux?
En fait, je pense qu'on est dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de communication et les maires, ils ont utilisé ce moyen pour mettre de la pression auprès de la ministre parce qu'il n'y a pas de discussion. Ils ne veulent pas vivre ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Le problème avec cette année, M. Dumont, il y a une élection municipale. Quel maire va s'aventurer à augmenter les taxes et perdre ses prochaines élections?
Ouais.
C'est la réalité. Les maires qui vont augmenter le budget au mois de décembre, ils feront face à une contestation de la part de leurs concitoyens parce que c'est très clair, c'est une année électorale ou municipale. Et c'est de là où ils ne voulaient pas... L'hypothèse que j'ai, c'est que les maires ne voulaient pas vivre le même psychodrame de l'année dernière où le gouvernement, dernière minute, il a dit, écoute, je vais débloquer quelques sommes. Et c'est de là où je demande clairement à Mme la ministre de prendre le leadership nécessaire. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est ministre de la mobilité durable. C'est très important.
Bon, ça veut dire réagir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, M. Dumont. Au revoir.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
On parle sport. Salut, Jean-François. Oui, on n'a pas le son.
Allô?
C'est amorcé les séries de la Coupe Stanley. Les premiers matchs ont eu lieu. Il y a une coupe d'équipe, d'entraîneurs d'équipe où on doit commencer à être nerveux, à dire « Ouais, est-ce que notre gardien va faire la job? » Je pense aux Maple Leafs, à l'Avalanche, des bonnes équipes qui ont mal commencé, mais parce que écoute, tu peux pas gagner pas de gardien en série. Là.
L'Avalanche, hier, a totalement dominé le match. Malheureusement, Georgiev a été affreux. Là.
Hey, 7 buts sur 23 lancés.
Il y a un pourcentage de 680. ça a juste pas de bon sens. Puis ils pourront pas aller nulle part de cette façon-là avec ce gardien-là. Puis à Toronto, ils ont le même problème. Puis là, rapidement, on va entendre parler de Wall.
Le deuxième gardien?
Ouais, le deuxième gardien. Mario, je vais prendre mes autres écouteurs parce que ça marche pas, hein?
Oui, on t'entend bien, nous. Toi, t'as pas l'air...
Il y a un délai de fou. OK, parfait.
Oui, donc ce soir, 4 matchs.
Oui, ce soir, 4 matchs. Et ce que j'aime pas tellement, c'est le retour de Mark Stone. Comme l'année passée. Donc, Mark Stone, souvenez-vous, l'année passée, a fini l'année blessé, entre guillemets. Et comme ça, il compte pas sur la masse salariale de l'équipe. Et quand arrive le premier match des séries,
il est rétabli.
Il est prêt. Et tu sais, je dis pas qu'il était pas blessé, là. Il a manqué 26 rencontres pour une déchirure à la rate. Donc, ça va. Mais à mon avis, dans les 2 dernières semaines de la saison, il aurait pu jouer.
Mais s'il avait joué juste un match, mettons la semaine passée, tout ça, il rembarquait ça. Donc là, il aurait été comme un débordement de la masse salariale.
Là. Fait que là, il fallait qu'il bouge un joueur, fallait qu'il passe au ballottage, fallait qu'il trouve une solution. Fait que c'était facile de dire, prends ton temps, on est
pas pressé.
Je pense, t'as encore mal, je pense, un peu à la rate, hein. Il est pas recousu. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'ils sont bien au-dessus de la masse salariale.
Mais Coach Kucherov avait fait ça avec Tampa Bay il y a 2 ans, ça se peut-tu? Ou l'année passée?
C'est contre le Canadien?
Ah oui, c'est l'année ça, il y a 2 ans.
La Coupe Stanley.
Kucherov comptait pas la masse salariale.
Exactement, parce que c'est une règle. Dans les séries, il n'y a pas de masse salariale. Fait que bref, retour de Mark Stone ce soir. Reste que je favorise Dallas quand même. Puis Toronto, ben, on a hâte de voir ce que Nylander... Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il ne sera pas là? C'est quand même une pièce importante pour les Maple Leafs.
On parle encore du transfert des Coyotes vers Salt Lake City, parce que là, c'est le nouveau propriétaire qui s'est exprimé. Mais le dossier continue à faire couler de l'encre, là.
Ben, aujourd'hui, pour vrai, ce qu'on a appris, c'est vraiment pas le fun pour les gens de Québec. Donc, Ryan Smith est passé à The Pat McAfee Show, qui est une espèce de balado sur le sport. Et là, il a raconté comment ça s'est passé. Lui, ça fait seulement quelques mois qu'il a levé la main pour dire « Nous autres, on serait intéressés à avoir une franchise là, de la Ligue nationale de hockey. Comme plusieurs autres équipes. » Et le 6 mars, en tout cas, il dit autour du 6 mars, Gary Bettman l'a appelé pour dire « Écoute, on a peut-être un plan là, pour les Coyotes. Serais-tu prêt à embarquer dans un défi un peu fou? » En 6 semaines, ils ont viré ça de bord et ils ont officialisé le déménagement vers Salt Lake City. Ça prouve-tu à quel point ils nous voulaient pas ici?
T'es fou, hein?
Tu sais, je veux dire, tu prends quelqu'un qui est pas tout à fait prêt puis tu dis, on va organiser de quoi, là?
Tu le pousses.
Tu le pousses. C'est l'amphithéâtre, il y a des changements à faire dedans. Alors qu'à Québec, tout était prêt, là. Fait que Gary voulait aller là-bas, il s'est arrangé. Fait que ça prouve que le plus important, c'est de charmer Gary.
Ouais. Ouais. En même temps, c'est sûr, ben là, c'est toujours changeable. C'était une équipe de l'Ouest. Là. Ça, on plusieurs disaient, tu sais, c'est une équipe de l'Ouest, tu peux difficilement l'amener à Québec. Alors, là, en fait que tu déplaces d'autres équipes, là, que tu renvoies Chicago, mais il fallait que tu joues avec deux, là.
C'est sûr que c'était plus simple, puis c'était meilleur pour les divisions, puis tout ça. Mais je peux pas m'imaginer Gary Bettman, puis son Bill Daly, puis là, sont dans une réunion, puis là, ils font « Hey, là, on a un problème avec les Coyotes, faut les envoyer quelque part. Quelle ville est prête pour accueillir notre franchise? »
Je pense pas à Québec, là.
Je vois pas Québec. Hey, on va demander à un gars de faire quelque chose d'extraordinaire en 6 semaines, de préparer l'avenue d'une équipe. Fait que, tu sais, pourquoi il n'y a pas de logo, de nom d'équipe, etc.? C'est parce que ça s'est fait sur un coin de table. Hey, 6 mars aujourd'hui, c'est vite, là.
Ouais. Parle-moi de l'histoire d'Aaron Boone expulsé d'un match des Yankees.
Ouais, ça circule partout. Si vous êtes un peu sur les médias sociaux, que vous suivez les chroniqueurs sportifs ou encore tout simplement le baseball majeur, moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, il est entraîneur, il est là dans l'abri, la main à côté sur la clôture. Puis là, il y a un mauvais call de l'arbitre, fait qu'il dit quelque chose, l'arbitre l'avertit. C'est correct. On est en première manche, là. Fait que là, le jeu repart. Et là, l'arbitre, à un moment donné, il pète les plombs puis il le met dehors. Mais lui, il a rien dit, puis on voit bien sur la séquence vidéo, c'est quelqu'un dans les estrades, derrière lui, qui a crié quelque chose de méchant à l'arbitre. L'arbitre, lui, a juste entendu ça. Il a sacré l'entraîneur
dehors. Il pense que c'est le coach qui a remis une autre couche.
Et là, évidemment, avec toutes les caméras maintenant partout, on est capable en isolé de voir très bien le spectateur qui crie après l'arbitre. Et là, il a beau se défendre, il dit « Je t'ai rien dit, c'est lui,
c'est lui! » Trop tard, t'es dans...
Trop tard, bye-bye.
À suivre. Hey, merci. Bye, merci. Salut. À vous, on se retrouve demain.